C'est un signe, ce djinn. Il représente la promesse que nous nous sommes faite. Quoi qu'il arrive, nous resterons amis. Mais nous nous sommes aussi lancé un défi. Ça ne suffit pas de rester terrés dans nos petites maisons climatisées de Bethesda, au fin fond du Maryland. Nous nous sommes promis qu'un jour nous sortirions de là pour conquérir le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 filles et un djinn dans ce nouvel épisode d'Adapte-moi, si tu peux.
Docteur Lecter, je m'appelle Clarisse Darling. Est-ce que je peux vous parler ?
Tu es un sorcier, Harry.
Je lui pardonnerais volontiers son orgueil s'il n'avait pas blessé le mien.
Vous avez toujours été le gardien.
C'est qui le con qui a écrit ça ? William Shakespeare.
Bonjour et bienvenue dans Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 filles et un djinn, un roman d'Anne Brashears paru en 2001 et qui a été adapté au cinéma par Ken Kwapis en 2005. Pour parler de ce titre, je suis aujourd'hui avec Pascal.
Salut.
Et nous accueillons aujourd'hui deux nouvelles invitées, Clara et Flore du podcast Rome Comment.
Bonsoir.
C'est répété ou...
Ah ouais, waouh.
Non, on se regarde dans les yeux et on sait ce qu'on
et
va
on
dire.
On sait, genre, ouais.
J'ai d'abord dire bonsoir Paris, mais voilà. Moi c'est Flore.
Moi c'est Clara.
Et on est du podcast Rome Comment et on est trop contents d'être là.
Attends, oui. Le podcast quoi? Je suis pas sûre d'avoir bien compris.
Rome Comment? Le podcast qui t'explique mais comment. Attends, non,
c'est
toi qui le dis toujours. Ça, je vais vous dire, c'était pas répété parce que c'est toujours Clara qui dit cette phrase, donc oui, je n'étais pas prête.
Rome Comment, c'est notre podcast qui t'explique comment mais comment sont construites tes rom-com préférées. On en sort un par mois parce que on peut pas faire plus. Donc on est mensuel, mais on est très très drôle. N'hésitez pas à venir nous écouter.
Si vous aimez les belles histoires d'amour.
Ou pas,
oui, alors,
ouais, les histoires d'amour moches aussi, hein.
Oui, notre épisode de cet été, c'est sur Camp Rock. Donc voilà, si vous aimez les coupes mulets et les slims blancs, n'hésitez pas à nous suivre
et à consulter.
Tu te sens concernée ? J'ai été voir les Jonas Brothers en concert en février 2020, donc.
Mais je respecte
je suis
ça.
Pour.
On respecte, mais il a plus de mulets. Il a plus de mulets, c'est le plus important.
Certes. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous recevoir dans le podcast. Alors, avant de commencer. Comme d'habitude, la première question, comment est-ce que vous avez découvert 4 filles et un djinn ? Est-ce que c'était d'abord le livre ou d'abord le film ? Et je suis obligée de commencer par toi, Flore.
Oui, alors moi, vraiment, je suis en train de vivre mon fantasme d'adolescente. C'est-à-dire que 4 filles et un djinn, c'est vraiment mon livre de quand j'étais ado. Vraiment, c'est... Je pense que c'était mon livre préféré quand j'étais ado. Je les ai vraiment tous lus, dévorés. Je les avais relus déjà avant là de faire ce podcast. Là, pour ce podcast, j'ai relu le premier. En fait, j'ai relu les 5. J'ai lu les 2 bouquins. Le tout en une semaine. Voilà, très compulsif. Et quand on a commencé à parler de faire un épisode ensemble et que je ne sais plus, je me demande, c'est pas toi, Clara, qui a proposé 4 filles et un djinn. Je ne sais plus qui l'a proposé.
C'est pas Victoire.
Je crois que j'ai fait une liste ouais. Et que l'une de vous a crié, il faut faire celui-là.
C'était peut-être moi. Donc, moi, j'ai d'abord découvert, j'ai clairement d'abord découvert les livres. Voilà. Et toi, Clara?
J'ai aussi d'abord découvert les livres à la bibliothèque municipale du village dans l'Isère où j'ai passé mes années de primaire. Et en fait, c'est le premier livre un peu girly qui m'a intéressée. C'est la première saga où je me suis dit ouais, c'est un truc de fille, mais j'aime bien. Parce que moi, j'étais très chiante quand j'étais un enfant très
t'étais
relou.
T'étais pas comme les autres
j'étais
filles.
J'étais pas comme les autres, j'avais des jeans, d'accord, troués au genou.
Mais tu lisais quoi, du coup ?
Moi, je lisais Harry Potter, je lisais Eragon, je lisais des trucs qui sont... En vrai, rien n'est genré et rien n'est fille ou garçon. C'est pour ça que je mets des guillemets, mais c'est vrai que c'est pas très radiophonique.
Oui, c'est vrai que moi, à l'époque, je lisais plus genre Journal d'une princesse, des trucs comme
non,
ça.
Non, moi, j'ai lu ça beaucoup plus tard. D'ailleurs, c'est très bien de le découvrir à 14 ans, je vous le dis.
Non, moi, c'était pas ouf.
Très bien. Mais du coup, non, clairement, d'abord les livres. Et en fait, j'ai vu le film pour la toute première fois, le premier, il y a 6 mois à peine. Donc, je n'avais jamais vu le film de 4 filles et un djinn. Et en fait, il est tombé sur Netflix.
Oui,
il est tombé
exact.
Dans le droit Netflix il y a quelques mois. Et du coup, je l'ai regardé parce qu'il était sur ma poche d'accueil. Et dedans, il y a America Ferrara, qui est une comédienne que j'aime beaucoup. Puis il y a Blake Lively et tout. Donc, il y a plein de gens quand même assez connus. Et du coup, je l'ai regardé comme ça. Donc, voilà.
Ok. Et toi, Pascal ?
Bah moi, je suis clairement Team Clara là-dedans. En fait, moi, j'ai découvert ce livre suite à un lobbying de Victoire il y a un an seulement.
Suite aux 4 filles du Dr Marsh.
Voilà, en fait, moi, je lisais que des trucs type Harry Potter, trucs fantastiques. Mais je suis jamais passée du côté girly une... de la force.
Attends, t'avais une incursion quand même dans Les Espionnes du Roi Soleil.
Oh, oui. C'était le
alors,
feu, ça.
Il y avait un petit côté, j'aimais bien les trucs un peu historiques comme ouais. ça. Versailles. Mais j'ai jamais lu type Journal du Princesse, type Café Indigène. Bon, ça, c'est arrivé plus tard, où j'aime bien des fois des trucs un peu romantiques, mais quand
nous,
j'étais
pas du
petite...
nous, on déteste l'amour, c'est...
Mais du coup, voilà, donc c'est pas un roman de cœur, comme ça peut l'être pour vous. Pour moi, je l'ai découvert très récemment et j'ai vu le film pour la première fois la semaine dernière. Voilà, c'est très récent. C'est
on
très,
va
très
avoir ton retour à chaud. En
voilà.
Fait.
Bah, moi, du coup, je suis complètement Team Flore. J'ai lu ce livre quand j'étais en sixième. Donc,
moi aussi, en vrai, je pense que j'avais cet âge-là.
Moi, ça a un peu fondé plein de choses en mode sur mes attentes, sur l'amitié et tout. J'avais trop envie de vivre ça avec mes copines du collège. Je crois que c'était un peu trop intense, en vrai, pour des personnes lambda. Mais ouais, j'ai lu, bien sûr, Harry Potter. J'avais lu les Eragon. Je lisais aussi L'Apprenti Épouvanteur. Mais je lisais aussi beaucoup de choses... Ma girlie, comme ça, les journaux d'une princesse aussi, je les ai tous dévorés.
Mais tu vois, bon, on pourra en parler quand on rentrera, donc à ce qu'on a pensé du livre, mais je pense qu'en termes de construction de mon identité, Catfish et un jean a été bénéfique sur plein de trucs, là où des bouquins comme Journal d'une princesse ont été détrimentales à ma santé. En termes de ce que ça te projetait en tant que jeune fille, je pense que Catfish et un jean s'en sort mille fois mieux que d'autres bouquins girly qu'on lisait à l'époque.
C'est possible, ouais.
J'ai pas un très bon
même
souvenir.
Même des teen com, pour parler du film, c'est assez... Enfin, l'image que ça renvoie, ça va.
On oui. verra s'il survit à 2022, le roman et le...
Ça dépend, hein, on verra.
Le roman, peut-être, t'as un peu moins de chance. Il est un peu au bout de la planche, le roman, dans mon cœur, hein, mais bon...
Bon, parlons du livre. Catfish et un jean ou The Sisterhood of the Traveling Pants en VO est un roman pour adolescents écrit par Anne Brashears et paru en 2001. Anne Brashears est une autrice américaine née en 1967. Elle a grandi dans la région de Washington DC. Elle a suivi des études de philosophie à Barnard avant de devenir éditrice pendant plusieurs années dans l'édition Jeunesse, puis coprésidente de Alloy Entertainment, qui était une filiale de Warner Bros, spécialisée notamment dans le packaging éditorial. Et alors, je ne savais pas ce que c'était le packaging éditorial, mais en fait, c'est très courant dans les pays anglo-saxons, pas trop en France. En fait, ça consiste pour une maison d'édition à sous-traiter une partie, voire la totalité de la création d'un livre.
Ça existe, hein, un peu.
Mais c'est-à-dire moi... la création, le fait d'assembler le livre, ou juste
non,
genre, le visuel
des couvertures? C'est vraiment l'écriture, les recherches, le travail d'édition, l'impression à une entreprise extérieure.
Ah non, parce qu'on va, ils sous-traitent leur travail de maison d'édition à quelqu'un d'autre.
Genre, j'imagine que par exemple pour les chairs de poule, ça doit être des trucs
exact,
comme ça.
C'est
vois.
Exactement ça. Ouais. Chairs de poule, c'est exactement un exemple de
c'est
ça.
C'est comme prendre des freelances, mais c'est des boîtes entières, quoi.
Ouais, en gros, c'est un peu du ghostwriting.
Mais ouais, j'allais dire, mais c'est trop drôle parce que le concept d'une maison d'édition, c'est ça leur métier, du coup, ils le font faire par quelqu'un d'autre.
Ouais, bah là, en fait, l'idée, c'est de développer en fait des idées avec des romanciers, des maisons d'édition, mais ils sont aussi à Alloy Entertainment, comme ils appartiennent à Warner. C'est aussi potentiellement développer des livres qui seront ensuite adaptés. Exactement.
Ah,
c'est
okay.
Bah, et du coup, typiquement, parmi les romans qui ont été produits par Alloy Entertainment, on a notamment Gossip Girl.
Ah.
Journal d'un vampire.
Alors ça, dans la construction. Okay. Franchement, Gossip Girl, dans la construction de l'identité d'une jeune femme, ça a été. C'est pire que
dévastateur.
Ah bah nous, on connaît bien avec Victoire. Ah,
ça, c'était. C'est pour ça que je suis devenue accro à mon lycée à cheveux. Ou encore Pretty Little Liars aussi.
Ok, je vois très bien ce que c'est du coup et. Ok, pas incroyable. Ok, d'accord. Bon à savoir.
Et en fait, c'est pendant du coup son temps chez Alloy que Anne Brashears a eu l'inspiration pour Catfish et un jean. Et alors, il faut savoir que donc elle y travaillait, elle était coprésidente de la société. Et en fait, sa collègue Jodie Anderson lui a raconté des histoires de sa propre jeunesse quand ses amis et elle partageaient un jean.
Ah, c'est une histoire vraie.
Non, mais c'est surtout qu'il existe deux versions de cette histoire. Donc alors, Anne Brashears affirme que quand elle a entendu cette histoire, qu'elle a beaucoup d'imagination, cette histoire l'a inspirée et avec l'accord de Jodie Anderson,
ah merde,
elle aurait créé une storyline, des personnages, vendu le projet et écrit le livre elle-même. Et qu'Anderson a été rémunérée avec un petit bonus. Il y a une autre version de cette histoire.
Donc non, la vraie, est-ce que tu vas me détruire mon enfance?
Le scandale.
Ouais, qui serait en... En fait, c'est Jodie Anderson elle-même qui a soumis le projet du livre en espérant être sélectionnée pour l'écrire. Et qu'en fait, c'est Anne Brashears qui a décidé de l'écrire elle-même et que Jodie Anderson n'a jamais été payée pour le projet.
Non.
Et n'a plus jamais eu
de
contact avec Alloy Entertainment par la suite.
Purée.
Ouais. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas qu'elle ait
non.
Ouais, bah, j'espère que ça pourrait plus se faire. Quoique. J'ai bien
oui,
peur
cela
que...
dit, Remember la meuf qui avait écrit.
Oui,
Eiffel.
Le film Eiffel,
ah bah oui,
c'est
ça, la scénariste.
Ouais, voilà.
Ah, ça me brise le cœur. Même si du coup, je suis là, ah, donc c'est vraiment possible d'avoir la même taille de jean que 4 personnes.
Oui, par contre,
okay,
ça.
Suspension d'incrédulité.
En vrai, c'était. Non, mais je suis désolée, c'était un legging et c'est tout. Genre, c'est...
Ouais, ouais.
Jogging, ça sonne, ça sonne beaucoup moins bien 4 filles en jogging. Donc.
Bon, en tout cas, ouais, cette histoire n'a pas eu d'impact vraiment sur la popularité de la saga, ni d'ailleurs sur la réputation d'Anne Brashears, donc qui a quand même qui vit maintenant aujourd'hui de son écriture à New York, donc tout se passe bien pour elle.
On l'embrasse pas du tout.
Bah, elle dira plus tard, quoi qu'il en soit, j'ai adoré cette idée. Une chemise peut.
Tu m'étonnes.
Non, mais, elle dit, une chemise peut plus facilement convenir à différentes personnes, mais les jeans sont plus critiques. Ça a capturé mon imagination.
Le jean est critique.
Bah oui.
Ce soir.
Oula.
Je suis assez d'accord avec elle, cela dit, sur ça. Mood.
Il faut savoir qu'une des grandes discordes entre Flore et moi, c'est le pantalon.
Le jean, il faut savoir, on ne le racontera pas ici, mais Clara m'a vu faire un breakdown complet dans une cabine d'essayage à Monkey pour une histoire de jean.
Ouais, ouais, ouais.
Et vraiment, à un moment, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais Flore, c'est pas si grave que ça, parce que j'étais en spirale absolue, donc je n'aurais jamais pu être une membre du quatuor de 4 filles et un jean, je pense.
Non, tu aurais pu être le jean, cela dit.
Du coup, Pascal, est-ce que tu peux nous faire le résumé de 4 filles et un jean?
Carmen, Tibi, Bridget et Lena sont meilleures amies. On les surnomme les filles de septembre, car leurs mères ont toutes accouché à ce moment-là. Elles passent toutes leurs vacances ensemble, mais cet été-là, à la veille de leurs 16 ans, il en sera autrement. Pour rester unies, elles vont se passer à tour de rôle un jean qui s'avère presque magique, car il leur va parfaitement à toutes.
Comment ça, presque magique? Il est magique.
Oui, bon, écoute.
Moi, je pense, encore une fois, je suis désolée, mais si vous avez déjà essayé un jean, vous savez que c'est impossible.
Non, mais alors, je vais vous le dire, hot take. Je pense que les corps des meufs de 15 ans lambda rentrent toutes dans le même jean parce que il y a pas
non,
dans les années 2000 il y a pas tant de standards de beauté que ça, et on va revenir dessus, mais on dit que Carmen c'est la grosse, genre la pseudo. C'est comme quand on dit Bridget Jones c'est grosse, genre ouais. Je suis là, mais bien sûr. Et genre en fait c'est plausible, à 15 ans t'as pas encore de forme et tout.
Ah, mais là elles sont pubères quand même.
Moi ce que je trouve, qu'il y ait pas, ce qui est pas hyper.
Et puis elles font pas la
plausible,
même taille.
Ce qui est pas plausible dans le bouquin, dans le film, pardon, c'est que le jean leur va à toutes les quatre, mais de façon pareille. C'est-à-dire que genre, si tu veux être plausible, ben en fait, il est moulant sur celle qui est la plus grosse,
oui, voilà,
il est un peu baillé
oui, voilà,
sur
oui.
L'autre.
Non,
là,
ça, je suis d'accord.
C'est toute la même coupe, et t'es là, ce n'est juste pas possible en fait.
C'est vrai,
ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais écoutez, en vrai, elle a pas tort, l'autrice. C'est vachement plus stylé de se partager un jean.
Qu'une ceinture.
Se partager, hein.
Les chaussettes.
La sororité des chaussettes magiques. Interdit de les laver, putain, ça serait dur.
On adore. En tout cas, l'intro du coup du livre est écrite à la première personne du point de vue de Carmen, l'une des filles. En fait, elle raconte comment elle a trouvé ce jean en friperie. Et ensuite, le livre est construit où on alterne les points de vue de chaque fille. Et ces quatre amies qu'on découvre et qui ont toutes des profils et des tempéraments complètement opposés. C'est vraiment le quatuor qui se complète, en fait.
En fait, sur le papier, je trouve que ça fait très genre la sportive, l'artiste, l'intello, la drama queen. Mais je suis désolée, je trouve qu'elles sont quand même mieux construites que ça.
Oui, je suis d'accord.
Elles sont, sur le papier, c'est ça. Et c'est un truc que j'adore dans ce bouquin, c'est que je trouve qu'elles ont vraiment toutes des personnalités très poussée, et que franchement, quand j'ai lu ça, quand j'avais 14 ans, à 14 ans, les bouquins qu'on lisait, quand t'étais une fille, t'avais pas tous ces choix de personnalité.
Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Moi, j'ai un gros souvenir de. Parce qu'à la suite de 4 filles et un jean, j'ai lu un livre que j'aurais dû lire plus jeune, qui s'appelle Le Club des Babysitters.
Ah, j'adorais aussi
c'est
ça!
C'est trop bien. Mais en fait, c'est parce que c'est 4 filles et un jean avec des personnes plus jeunes.
Ouais.
Et elles sont réunies par.
Elles sont 8, non, elles sont nombreuses.
Elles sont un
hein.
peu plus, ouais. Ouais. Mais elles sont réunies par un même truc, donc le babysitting. Mais elles sont toutes très différentes et en fait, ça targetait pas mal de choses que tu traverses quand tu es enfant. Genre, il y a un truc genre les parents divorcent, il y a un petit frère qui arrive, il y en a une qui est diabétique, enfin, ce genre de choses. Et 4 filles et un jean, quand je l'ai lu, c'est le premier truc où je me suis dit, ah, tu peux choisir laquelle tu es. Et encore plus avec The Babysitter's Club pour le coup, mais 4 filles et un jean, moi quand j'ai lu, j'étais genre dans ma tête, j'étais Tibi, tu vois.
Mais
alors que pas du tout.
En vrai, pas du tout. J'en arrive à la question la plus importante de ce soir, je suis désolée, mais qui êtes-vous?
Ok,
des 4.
Ah, il faut le dire direct.
Ah, ok, non, t'as
quatre sur table.
Excuse-moi, t'as peut-être un plan.
Mais
ouais, attends, j'avoue, on est en train de ruiner le podcast.
Quand tu avais 15 ans ou qui es-tu?
Ouais,
qui est
maintenant.
C'était pas pareil.
Non,
pas
non
pareil.
Moi je pensais que j'étais Tibi parce que je pensais que j'étais spéciale. Et en fait, Tibi elle pense qu'elle est spéciale. Mais quelque part, j'étais peut-être Tibi.
Elle est très average quand même,
ouais,
Tibi, parmi les 4.
Très très average. Mais non, moi je suis clairement Carmen. Hein.
T'es
moi je suis très énervée, j'ai un gros cul donc.
En le relisant, j'étais là. Oh, ça me rappelle ma Clara.
Et heureusement que tu viens de dire que c'est des personnages complexes.
Je suis complexe.
Et avec des grosses fesses.
Et j'ai des grosses fesses. C'est franchement... Get a girl who can do both.
Non, pendant longtemps, je disais que moi, j'étais aucune des quatre, mais que j'étais Effie, la sœur de Léna, parce qu'elle est pétillante, sociale, machin. Je voulais être différente. mais en relisant, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est incroyable, en fait, je suis Bridget. Mais je pense qu'au début, je ne pensais pas ça, parce que Bridget elle est...
Ouais,
alors, attention, comme ça, on ne dirait pas, oui, parce que Bridget, elle est genre ultra sportive et elle adore hommes.
Ça, non.
Donc ça, les deux, bof. Mais elle a ce truc... d'impulsivité et de joie et de très solaire et de... Mais après, elle fait une dépression.
Ouais, mais en relisant, je me suis dit la même chose.
Oh, c'est bien, on s'est trouvées toutes les deux.
Incroyable.
Oh là là, waouh, c'est beau, voilà. Et vous êtes lesquelles?
Franchement...
C'est difficile, hein.
Alors, on est toutes un peu des quatre. Hein.
Bah oui, ouais. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que moi, clairement, il y a des passages où je me suis reconnue, mais un peu dans toutes, quoi. Je n'oserais pas dire que je suis l'un des archétypes, en fait.
Alors que nous on est basic comme ça, hein, désolé. C'est vraiment des grosses merdes.
Non, c'était pas du tout une critique en plus. Mais non, mais
peut-être
bon.
Plus Léna, tu vois. Moi je me dis, elle est un peu.
La farouche et mystérieuse.
Ouais, non mais.
En vrai, elle est un peu en mode. Jane Austen, clairement.
Elle est toute timide, elle est là, elle s'habille un peu avec des grandes robes.
Parce que t'as pas lu le tome 2, hein. T'as pas lu le tome 2.
En vrai, moi ma meuf c'est Léna, donc très clairement je.
Ouais, je
stan.
Moi je les aime toutes. Voilà.
Moi aussi, c'est mes quatre enfants. Voilà.
Et du coup, elles font un pacte, ce fameux pacte avant le premier été où elles vont être séparées pour se passer le djinn magique. Et alors, il faut quand même revenir un peu sur certaines règles parce qu'elles énoncent des règles du djinn. Moi, il y en a qui m'ont un peu perturbée déjà, qui n'ont pas passé l'épreuve du temps. Il est interdit de porter le jean en rentrant son t-shirt à l'intérieur.
Oui.
Pardon.
Ah oui, moi aussi.
Pardon,
hein, je me suis dit oula.
Quand c'était la dernière fois que je n'ai pas rentré mon t-shirt dans mon
jean.
Vous
ne voyez pas, mais Victoire actuellement un jean avec un t-shirt.
Exact. Exact. J'affirme finalement mes positions, tu vois.
Mais est-ce que t'as roulé le bas aussi de ton jean? Est-ce que tu l'as remonté? Ah, parce que ça aussi, elles disent que c'est interdit. Et c'est vrai qu'en effet, je me suis dit waouh, c'est vraiment une autre époque. Mais en même temps, à chaque fois que je suis en pantalon devant ma mère et que mon t-shirt est rentré, ma mère me dit mais sors. Ton t-shirt là, c'est moche, ça poque ou je sais pas quoi.
Ça poque.
Ouais, ça ploque, je sais pas comment elle dit. Et du coup, je suis là, c'est vraiment un truc de générationnel en fait.
Ma mère, elle est un peu en mode on s'est débarrassé de ça dans les années 80, genre on l'a vécu, on s'en est débarrassé, ne le ramenez pas au goût du jour. Et elle le compare à c'est comme si vous, les tailles basses revenaient. Et là, les tailles basses reviennent.
Et c'est l'enfer.
Bah oui, et c'est l'enfer. Donc en fait, je peux comprendre nos mères, tu vois. Oui, c'est okay. Désolée.
Mais elles ont quand même la règle la plus étrange aussi qui est vous n'avez pas le droit de le laver.
Oui.
Qui sur le long terme, en plus je suis désolée, faut être précis, mais elle se partage quand même ce jean. Un jean, ça va quand même sur ton entrejambe, quatre personnes. Non, faut laver ton jean en fait. Enfin,
alors ouais, c'est un peu dégueu, mais moi je comprends le principe, tu vois. Je me dis, elles ont peur que la magie parte. Genre, elle le passe au lavage, il rétrécit, c'est mort.
Ouais, c'est vrai.
Et alors, figure-toi qu'en plus j'ai été regarder du coup sur le site de Levi's, et en fait le patron de Levi's, il ne conseille pas non plus de laver les jeans. Il dit en fait pour les entre guillemets les stériliser, faut les mettre au congélo.
Mmh.
Pour tuer les bactéries,
comme
mais en fait,
des
il dit que c'est pas bon en fait de laver un
mais
jean,
après,
ça
non,
le déforme.
Mais c'est vrai qu'on n'est pas censé laver les jeans autant qu'on les lave actuellement, c'est pas bon, c'est des trucs hyper résistants là pour les cow-boys, qui n'avaient pas leurs jeans. Mais sachant que le bouquin, elles ont quand même le jean pendant 4 ans, je pense qu'il y a un moment, j'espère qu'elles l'ont mis en congélo. Hein.
Pas réaliste non plus. Le même jean pendant
4
ans.
Alors, ça aussi, énorme problématique. Les meufs, le jean continue de leur aller pendant 4 ans.
Mais il est juste... magique.
Et il n'y a pas de. Vous savez, ce trou d'usure entre les cuisses.
Les cuisses qui frottent, pas... je ne sais pas, elles l'ont pas.
Non. Ils symbolisent leur amitié, bien sûr qu'il leur va toujours. Du coup, elles partent. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après cette scène de pacte, en fait, pendant tout le livre, elles vont toutes être séparées concrètement.
Oui,
il y a très peu de moments où elles vont de nouveau se retrouver ensemble après cette première scène d'introduction. Donc il y a Léna qui part en Grèce à Oia sur l'île de Santorin, Bridget qui part au Mexique en club de foot, Carmen qui va chez son père en Caroline du Sud et Tibi qui reste dans le Maryland et qui est vendeuse chez Walmart. C'est vraiment quatre ambiances complètement différentes et pour le coup le livre c'est pas mal parce que on a une bonne dynamique, je trouve, entre les changements de scène.
Oui, je suis d'accord.
Il n'y a pas de moment où tu t'ennuies. Enfin, ça
oui,
va
même,
assez vite.
Même limite, parfois, je trouvais que ça change trop vite et que tu es un peu là, genre, ah, attends, on est déjà passé à une autre, mais attends, je voulais l'histoire de l'autre.
Après, moi, il y en a qui m'ont moins passionné que d'autres, hein, les histoires.
Ah, dis-nous.
Attention, il y a des mauvaises réponses.
Laisse-moi deviner, celle de Carmen, je t'en fous.
Ouais, je suis désolée, celle de Carmen, je m'en fous, elle est trop
j'en
chiante.
J'en étais sûre.
Non, Carmen.
Non, mais après, moi, je me sentais vraiment pas du tout concernée parce que c'est une histoire en mode ses parents sont divorcés, elle arrive, il y a une nouvelle famille et tout. Moi, j'étais en mode pff, un
tu
peu
t'es
boring,
jamais,
quoi.
Tu t'es jamais sentie de trop quelque part?
Moyen, enfin.
Non, mais ça se sent. C'est un trauma qui lui est compréhensible quand on l'a vécu, peut-être.
Non, mais en fait, et je peux comprendre. Enfin, du coup, je comprends que ça intéresse des personnes. Donc, je pense que c'est un personnage qui est important. Mais moi, ça m'a moins.
Moi, justement, je trouve que tout son personnage. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Carmen parce que tous ces trucs de colère et de. Et elle fait des choses, entre guillemets, qu'il ne faut pas faire. Je trouve que ça change de voir justement un personnage féminin bah, qui est un peu genre messie, qui fait un peu de la merde et qui regrette. Et elle a vraiment plus tout ce truc où genre elle s'en veut beaucoup, elle peut pas s'empêcher de faire ces trucs. Et je trouve que c'est tellement adolescent cette sensation de genre... Ah mais en fait je suis pas une bonne personne mais en fait ouais. Parce que les gens m'aiment et tout enfin genre
mais c'est très impulsif ouais, elle peut ouais. Pas s'en empêcher
ouais et je trouve qu'en fait tu le comprends parce qu'en fait en vrai moi je trouve que ce qui lui arrive cet été ça fait vachement de la enfin moi j'ai
trop
vachement de la peine pour elle et son père vraiment
ah,
la scène
horrible,
là où
hein.
Ils mangent tous
c'est
ensemble alors qu'elle a disparu
elle a jeté un caillou à travers la fenêtre ils sont là genre bon bah on passe au dessert ok non moi j'ai eu du mal avec l'histoire de Bridget pour le coup parce que le comment dire
le trope de l'entraîneur plus âgé peut-être
ouais. Alors non bah déjà ça je trouve ça un peu dérangeant mais à la rigueur je me dis on en a parlé avant c'est les années 2000 c'est genre bon c'est un peu de la merde mais entre 16 et 19 ans bon on devrait pas le faire mais c'est pas ça qui me choque le plus c'est vraiment tout le côté elle qui essaye de se vieillir et qui en fait le fait que genre je trouve que c'est excellent que ça soit traité. Le fait que genre, ah bah la première fois au final, ça peut aussi te traumatiser et pas du tout bien se passer. Et tu peux regretter, etc. Mais je trouve que c'est quand même traité de manière très légère. Et en fait, c'est genre, ah bah elle veut plus sortir et puis Lena, elle est obligée de venir la chercher.
Alors
avec
tu vois, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que franchement, Bridget, elle a quand même un comportement hyper erratique. Moi vraiment, en relisant le livre... Je me suis dit, mais en fait, elle est bipolaire, Bridget.
Sa mère est bipolaire,
ouais,
clairement.
Bah oui.
Non, mais c'est vrai qu'elle... Enfin, au début, elle est quand même ultra chaudasse. Hein,
oui, mais en fait... Mais
elle se jette dessus.
Oui, mais...
Oui, mais il n'y a pas de répercussions. Moi, c'est ça mon problème.
Si, parce que dans le livre, je trouve, tu sens que ça va mal se terminer parce que même quand elle, du coup, elle se donne tout aux entraînements de foot, tu vois, et il y a son entraîneuse, Molly, qui lui dit, non, mais calm down, je te mets sur le côté parce que franchement, t'es trop excitée. Et là, à un moment, elle dit, elle sent toute son énergie retomber et elle a soudain envie de pleurer. Et tu sais, c'est un truc où...
Mais
Bridget,
oui, mais après,
en voyant son comportement, moi, je me suis dit, en fait, il faut qu'elle aille voir un psy.
Ah, mais faut
elle ne va
dans
pas
le,
bien.
Dans le livre 2, elle fait une énorme dépression. Et
oui.
D'ailleurs, le jean ne lui va, le jean ne lui va plus.
Oui.
Parce qu'elle prend du poids, parce qu'elle fait une énorme dépression. Donc, il y a vraiment un moment où le jean ne va plus à l'une des
donc,
tu
vois, précises. Pour moi, la légère...
Le jean n'est pas magique, parce qu'elle chute.
Alors là, ça brise un mythe.
À la fin, je suis désolée, mais c'est quand même genre... Oh, tant pis, on continue.
Elle dit, je ressens un trou grand comme l'univers dans ma poitrine. Enfin, c'est horrible.
Après, elle a vécu des traumatismes. Puisque
oui,
sa mère
non, mais clairement,
décédée,
sa mère.
Mais du coup, tu vois, elle pensait que cet amour, cette relation, ça allait combler un truc peut-être. Et en fait, non. Donc.
Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve, là où je vois ce que tu veux dire, Clara, c'est que je trouve que la fin pour Bridget va assez vite.
Ça va très,
oui,
très vite.
Dans le sens où ça se passe. Elle fait genre un chapitre, elle est en dépression, un chapitre, Lena va la chercher. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la suite dans le 2 où ça explore beaucoup
plus
les répercussions.
Oui,
et c'est vrai que Bridget, moi, il y a des parties de sa histoire qui m'intéressent moins parce que c'est le foot. Voilà.
Je vais dans le 2, les cheveux en noir quand même.
Il y a beaucoup.
Quand
dans le 2.
Oula. Mais moi, j'ai pas lu la suite. Hein. J'ai lu que le 1, j'avoue.
Mais
en fait, j'ai
envie
de savoir
la suite là.
Mais en fait, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais j'ai la flemme de lire.
Bah, à la fin de ce podcast, tu vas en raconter. Parce que j'ai relu les 5.
Ok, je suis chaud.
La semaine dernière, voilà.
Ne raconte pas le 5, ça vaut pas le coup.
Voilà. Oui, je préfère faire genre qu'il n'existe pas. Le 5, pour ceux qui ne savent pas, les auditeurs et auditrices qui ne savent pas, le 5 est sorti, je crois, 5 ans après le dernier. Elle l'a repris et c'est elle plus âgée. Et elle fait une storyline
que
je
ne valide pas du
que
tout.
Je refuse de croire qu'il existe, voilà.
Voilà. Tu me diras ce que c'est après.
Ok.
Mais non, mais tu me diras ce que c'est après. Elle a commencé à faire un mime.
Je raconte du temps. Mais...
En parallèle de ça, on est aussi donc Tibi qui est en full déprime dans son Maryland natal.
J'adore l'histoire de Tibi.
Ouais, moi aussi.
Enfin, Je sais que quand j'étais petite, c'est celle qui m'a le plus marquée. Je pense que j'ai toujours été hyper impressionnable par rapport à la mort.
Oui, j'ai parce que quelqu'un décède finalement.
Voilà. Mais et en plus, moi, j'ai toujours. Je sais que Tibi, c'est ma préférée quand j'étais jeune parce que je trouve qu'elle a vraiment genre ce truc un peu mordant, un peu. Et je trouve que c'est celle qui a le plus de. Enfin, il y a vraiment une. Enfin, elles ont toutes des leçons à. C'est très les bouquins pour ados, c'est toujours ça. T'as toujours une leçon à apprendre. Mmh. Mais je trouve que la leçon de Tibi sur vraiment le fait qu'en fait, elle juge les gens en mode ah, c'est un peu des losers. Et qu'en fait, à la fin, elle se rend compte que ben non, en fait, il y a du, entre guillemets, beau dans chacun et tout. Ah, moi, je suis fraquée.
Ouais, j'adore, moi aussi.
Est-ce que t'as aimé l'histoire de la projectionniste qui connaît toutes les comédies romantiques par cœur? Est-ce que grave, tu serais pas identifiée à elle, en fait?
C'est moi, exactement.
C'est toi?
C'est moi. Mais clairement, dans une autre vie, j'ai pris un autre chemin et je suis cette personne. Mais même tout le truc avec... ou à la fin, vraiment, quand Bailey tombe malade... Enfin, elle est vraiment
attends,
malade.
Attends, faut peut-être expliquer, du coup, comment elle a rencontré Bailey. Enfin...
Et qui est Bailey, aussi?
Et qui est Bailey?
Bailey. Bailey est une jeune fille de 12 ans qui a un cancer, une leucémie, et qui en gros s'évanouit dans le Walmart où bosse Tibi, et en gros qui commence à coller Tibi qui réalise un documentaire sur les gens nuls dans son de sa ville. Et en gros, elles deviennent amies de façon un peu random.
Mais en fait, Tibi la tolère au début parce qu'elle apprend très tôt en fait oui, dans le livre qu'elle a un cancer. Et donc du coup, elle la prend un peu en pitié, bah, elle n'ose pas lui dire non, parce que bah, c'est un peu comme dans Les Étoiles Contraires, tu sais, tu peux pas refuser aux gens qui ont des cancers quoi que ce soit.
Et finalement...
Et en fait, c'est Bailey qui lui apprend tant de choses. Et moi, je me sens que ça avait beaucoup marqué le truc aussi à la fin, où du coup, quand Bailey est à l'hôpital et clairement est mourante, et que Tibi, elle veut pas y aller, ouais. Parce qu'elle est là, mais c'est trop dur et tout, et qu'il y a vraiment un truc en mode genre, non, mais il faut être courageuse, faut y aller. Et moi, je me sens que j'avais 13 ans, j'étais là... Ok, dans la vie, il faut être courageux parfois. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment hyper marqué. Moi, pour le coup, la storyline qui m'intéresse, que je trouve la moins intéressante, je pense que c'est celle de Léna.
Celle de Léna, je l'aime pas non plus.
Ouais,
moi, j'aime bien parce que c'est plus romantique. Oh.
Alors, moi, j'aime bien parce que ça se passe en Grèce.
Mais ils s'échangent pas 3 mots.
Bah, non, mais c'est surtout, c'est tellement problématique.
Oui, mais il y a plus de tension.
Ouais. En fait, le truc, c'est que, certes, on est peut-être là pour parler du côté un peu rom-com. Bon, mais alors, nous, on est sur les drames familiaux.
Juste, disons, les
non, c'est vrai, c'est le seul truc, la seule partie où il y a un peu de
love.
De love.
Donc, elle est en vacances chez ses grands-parents en Grèce. Et déjà, dès qu'elle arrive, sa grand-mère, elle veut quand même tout de suite la fourrer dans les bras de quelqu'un. Parce qu'en gros, c'est Léna, Kostos. La belle Léna. Tout le monde est subjugué par sa beauté. Et du coup, il faut absolument qu'elle la case avec... Kostos.
Mais ça, j'aime bien que cela dit la storyline de Léna sur son rapport à sa beauté.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est
exploité après.
Ouais. Et je trouve que c'est hyper intéressant tout son côté où elle est gênée, où par exemple il y a sa sœur à côté, elle est là, mais c'est pas cool pour les filles de toujours me dire que moi je suis magnifique, la pauvre. Ou alors elle dit des trucs comme ah oh, mais fille, elle a le droit d'avoir une personnalité parce que les gens regardent moins juste son physique. Enfin, tout ça, je trouve ça hyper.
Bah moi, j'ai bien aimé aussi le côté. À un moment, elle dit il y a une espèce de rapport de lièvre et la tortue entre Effie et elle, parce qu'elle dit en fait au début tout le monde me remarque. Moi à cause de mon physique, sauf qu'en fait Effie elle est beaucoup plus attachante, beaucoup plus pétillante, et en fait finalement tout le monde adore Effie passer le premier regard. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans la personnalité de Léna, c'est qu'en fait du coup elle a une espèce de elle a un espèce de blocage, de complexe par rapport au fait que tout le monde est focus sur sa beauté, enfin sur son apparence physique, et du coup bah en fait elle sait pas qui elle est censée être en termes de personnalité, et elle a peur en fait que sa personnalité finalement, quelle qu'elle soit, parce qu'elle ne sait pas encore exactement qui elle est censée être, ne plaise pas.
Ouais.
Et elle pense que Kostos la kiffe juste pour
oui,
son physique.
Beauté. Oui. Et c'est vrai que ça, le côté de genre elle sait pas encore qui elle est et tout, pareil, je trouve que c'est hyper bien amené pour des adolescentes de lire
ouais,
ça. Genre c'est bien.
Mais après, le truc qui est dommage, c'est que ça tombe dans des offres assez terribles, l'histoire de Léna, c'est que
oui.
c'est dès le début, c'est moi je trouve ça hyper accrocheur. Elle découvre en plus tout un patrimoine culturel qu'elle n'a pas parce qu'elle est née aux États-Unis mais de parents grecs. Et donc elle découvre la Grèce, elle parle pas
ça,
un
c'est
mot.
Stylé.
Et oui, et puis surtout elle
ça
commence à échanger avec son grand-père qui ne parle pas du tout anglais. Enfin, il y a tout un truc je trouve qui est hyper intéressant sur la recherche
famille,
de qui tu es. Tu peux aussi du coup aller rechercher vers ta famille et tout. Et ça tombe dans un truc.
Ouais, moi je suis vraiment.
Oui, après il y a le.
Ah bah, ouais. En fait, pour raconter, en gros, elle va un moment se baigner dans un bosquet aux oliviers hyper romantique, hyper caché, machin. Elle se baigne nue, donc pour elle, en plus, c'est le comble de l'audace, puisqu'elle est très, très pudique, etc. Et en fait, elle est surprise par inadvertance, pas du tout de façon voulue, par Kostos. Et en fait, du coup, elle va un peu paniquer et elle va rentrer chez elle un peu débraillée. Et quand sa grand-mère va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, elle va dire, enfin, en gros, juste, Kostos n'est pas un gentil garçon, un peu en mode crise d'hystérie. Et ensuite, après, il va y avoir un énorme malentendu que Léna ne va va attendre assez longtemps avant de le régler.
On va attendre mille fois.
Et il y aura un fight entre les grands-pères.
Ça, j'adore les papis grecs. Non, mais oui, en gros, du coup, il est sous-entendu. Enfin, en gros, ses grands-parents pensent que Costos l'a agressé.
Oui, ouais.
Et c'est chaud.
Et ça, c'est vrai que je suis d'accord que cette storyline. En fait, je comprends l'idée de. En fait. Je pense que clairement, elle voulait créer une tension dans leur relation et le fait un peu genre impossible, les incompréhensions. Mais je pense qu'il aurait pu se passer autre chose.
Oui, totalement.
Ce qui d'ailleurs
oui.
font dans le
et
film.
Et il se passe des choses trop tard.
Oui,
oui. Mais, ça, c'est sûr.
Mais après, moi, je sais que Léna et Costo, j'aime pas trop leur histoire, mais parce que de base, je suis pas hyper fan de ce trope. Qu'est-ce oui. qu'un trope de ce schéma narratif récurrent dans la fiction, les
c'était
aficionados
beau.
De Rome-Comment savent de quoi je parle. Mais le trope de un peu le coup de foudre où en fait. Au bout du bout, ils ne s'échangent pas un mot vraiment. Enfin, ils ont,
c'est très frustrant.
Ils ont quand même trois conversations. Et ensuite, et dans toute la suite des bouquins, spoiler alert, elle finira avec Costos plus tard.
C'est le big love, quoi.
Elle est là en mode, mon Dieu, c'est mon âme sœur, c'est incroyable, machin. Et moi, je suis en mode, tu lui as parlé, mis bout à bout, je pense, 20 minutes max. Tu vois enfin,
ils ont mais ils ont échangé un baiser brûlant dans la forge.
Non, ça, j'avoue, je vais pas vous
il
mentir.
Il est forgeron.
Quand j'avais, j'avoue, quand j'avais 14 ans, la forge, j'étais là genre, waouh.
C'est un peu le bad boy grec.
Bah
quoi.
Voilà.
Attends, le bad boy, c'est le
bad
fils
boy, c'est
à
le
papa.
Mais
non,
mais pas,
non,
mais le forgeron,
non,
enfin, voilà.
Il est pas bad boy. En soirée, il fait danser les mamies.
Ce n'est pas un fils à papa, son père est mort.
C'est vrai.
C'est pas un bad boy, mais c'est un homme un peu, tu vois.
Un homme blessé.
Blessé, un ouais. peu viril.
Il a des fêlures.
Il a des fêlures, comme les épées qu'il forge.
Oh là là.
Non, mais du coup, oui, tout ce truc, je suis d'accord que c'est vraiment pas.
Mais je pense que c'est un problème de temps aussi. Genre, je trouve que ça a peut-être mal vieilli parce que maintenant. Genre, je me souviens pas qu'à l'époque, ça m'est. Frustré.
Ah, moi non
oui.
plus.
Genre à l'époque, je l'ai lu, j'ai fait oh bah elle a juste pas dit non quand on lui avait demandé s'il l'avait violée, bah, c'est pas c'est... si grave.
En fait, elle a stressé, elle s'est enfoncée dans son mensonge et comme elle a des problèmes de communication.
Oui, bien sûr. Mm-mm. Mais tu vois, quand, rien quand elle le dit à Effie, le fait que Effie ne le dise pas elle-même, je suis genre putain, c'est quand même.
Mais non, mais surtout que moi, ça me paraît pas très compliqué à clear up l'histoire, tu vois.
Elle a honte, elle a honte d'avoir, ouais, d'avoir overreacted.
Non, mais c'est vrai qu'avec
en vrai, c'est compréhensible, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un des trucs que le temps ne,
oui,
ne
oui,
rend
oui,
pas.
Ne faites ouais. pas ça chez vous. mais moi, c'est vrai que je trouve, j'aime bien toutes les filles et tout, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'en fait, les personnalités les plus complexes et celles où je trouve que. Des fois, justement, tu sais pas exactement comment interpréter leur réaction. C'est vraiment pour moi Bridget et Léna. C'est elles qui ont les personnalités les moins.
Bah,
les moins accessibles, je trouve.
C'est vrai que aussi, genre, comme Carmen, par exemple, elle a beaucoup de trucs relationnels avec les autres. Tu la vois plus interagir avec le monde, alors que Léna, c'est très intérieur, en fait.
Oui. Ouais, mais je crois qu'on est venu là pour se faire roast sur nos choix de personnalité.
Elle a dit ça va, elle a dit Bridget, moi je suis
sincère. Non, c'est pas parce que t'es Bridget que c'est ta storyline préférée. Je te rappelle que. Vas-y, qu'est-ce que c'est un hors-jeu?
Si je sais très bien, c'est quand tu envoies et qu'il y avait il y avait pas de défenseur passé le mec à qui t'as
oh,
fait la passe.
C'est bien.
Et ouais, yes, voilà.
Je suis pas fan de foot non plus, hein. Mais c'est juste vraiment ouais, parce qu'en fait Tibi elle joue les rebelles, mais en fait c'est pareil, elle a un cœur qui bat là-dessous sous ses aspects un peu cyniques. Et du coup je trouve que voilà ces personnes, enfin la personnalité de Tibi que j'aime beaucoup, hein, et la personnalité de Carmen aussi, mais elles sont plus simples à comprendre dans le sens où tu comprends mieux leurs réactions parce que voilà Tibi. Elle est un peu saoulée parce que bah, en fait, ses parents, longtemps après elle, ils ont refait des enfants. Donc là, ils
c'est intéressant,
tout
ça
en
aussi,
mode
trouve, ouais.
couple un peu
oui, moi, ça, j'adore cette story-là.
Qu'elle ait
ouais.
des petits frères et ouais. petites sœurs,
voilà.
tout
elle
petit.
Elle doit s'en occuper, elle a la flemme.
C'est ça. Mais donc, du coup, ouais, je trouve qu'elles sont plus, entre guillemets, simples à lire que Bridget et Léna, où des fois, tu dis... T'as du mal à comprendre en fait leur personnalité des fois.
Mais tu vois, c'est drôle comme quoi, c'est là que je me dis, ce bouquin est vraiment trop bien. Parce que du coup, c'est vraiment propre à la personnalité de chaque
qui le lit,
et
ouais, je suis d'accord.
Parce que moi, je sais que Léna, je les aime toutes comme mes enfants, mais moi, Léna, c'est celle qui me saoule le plus.
Ouais, elle
vois,
me casse les pieds, Léna aussi.
Moi, Léna, je suis en mode, ok, on a compris, t'es belle et tu fais des oliviers. Et genre, mais parle à Costos, parle.
T'es belle et c'est trop dur et je suis genre
mais c'est
toi
les meufs c'est Sally Rooney avant l'heure hein.
Ah non, arrête,
ouf, ouais, je suis assez d'accord putain.
Oh my god grave elle est bonne
non mais c'est vrai
et
par exemple parce que je trouve que Tibi moi j'ai bien aimé son histoire et tout mais au début ça fait un peu cliché de la meuf rebelle
de la meuf next door genre
ouais,
ouais, ouais
je fais un documentaire
toi.
Qui s'appelle Succumentary parce que
je suis assise
tout nue dans ma ville
justement elle devient hyper déconstruite. Je trouve.
Oui, ça, elle évolue.
Alors que je vois pas d'évolution
dans le personnage de Léna comme il y en a une dans
C'est vrai, c'est vrai.
Oui,
c'est
je suis
vrai. Il y a plus d'évolution chez Tibi, ça.
C'est vrai.
Et Carmen, c'est juste genre être énervé, c'est grave un mood, tu vois. Genre,
ouais, mais Carmen, ado, à un moment, tu dis, ouais, enfin bon, est-ce que tu vas balancer des cailloux dans une...
Alors, pour avoir vécu la famille recomposée, je comprends à 100% Carmen. Ouais. Et franchement, j'étais furieuse à la fin quand elle rembourse son père pour la vitre.
Mais oui, j'espère qu'il a pas encaissé l'argent parce que putain, attends.
Mais le... Moi, je sais qu'un truc qui me rend juste un peu triste, puis on parle d'évolution de personnage, je sais que Carmen, dans la suite des bouquins, on lui fait souvent, on lui fait les deux bouquins suivants, ont beaucoup de storyline, toujours autour de sa colère, parce qu'il y a un truc où après sa mère se remarie aussi. Et ça, pour le coup, je trouve qu'ils l'ont fait un peu patiner dans ces trucs. Alors que Léna, elle, va avoir le droit à plus une évolution de personnalité.
Surtout que c'est le seul personnage de couleur, Carmen. Oui, c'est parce que, évidemment, tout le monde est mince, mais il y a au moins une portoricaine pour faire des gens de couleur, sinon tout le monde est blanc. Et
ça, c'est vrai que aussi.
Mais ça, c'est les années 2000, on peut
les
rien
années
dire.
2000, blanc, hétéro, genre. Peut... Tu vas me dire qu'il n'y avait pas. Tibi, je suis désolée, Tibi, elle est queer. Tibi,
bah,
elle a un
piercing dans le nez.
Tibi, elle a un piercing dans le nez, elle est queer. Voilà, j'ai décidé.
Tibi, c'est canon.
Elle a pas de petite expérience plus tard à la fac, non?
Non, non, il y a
aucune. Bah, non.
Mais par contre, dans Tibi, les bouquins.
Tibi, il y a rien?
Non,
y a
rien.
Dans tous les livres?
Mais non,
c'est
mais
horrible.
Parce qu'elle finit avec Brian.
Mais non, mais en vrai, tu vois, c'est
elle
un
finit
truc...
très vite avec Brian, en fait. Mais alors que.
Elle finit avec Brian, hein.
Brian le geek.
Brian de la Up, évidemment.
Non.
Mais tu vois, par contre, dans les suites des bouquins. Surtout dans les derniers, il y a des mentions de personnes homosexuelles, mais c'est genre...
C'est des
de
potes.
Loin. C'est de loin. Mais cela dit, c'est quand même mentionné. Attention.
Mais du coup, je trouve ça, pour revenir sur Carmen, je trouve ça très dommage qu'en effet, dans la suite, ce soit concentré autour de sa colère, parce que c'est la seule personnage de couleur. En fait, c'est un trope qu'on associe.
Oui, c'est vrai.
Très
c'est vrai.
Sur la angry black woman ou la angry latina woman.
C'est vrai.
Et en fait, ces personnages...
Oui, genre elles sont feisty, elles ont beaucoup de...
Ouais, en fait, elles ont du feu en elles parce qu'elles sont un peu spicy, genre c'est n'importe quoi. Et en fait, je trouve ça dommage. Mais en même temps, l'autrice est blanche, elle est née à Washington, elle a visiblement volé l'histoire de quelqu'un. Donc genre, en fait, c'est des choses que nous, on aime pointer du doigt en disant c'est pas bien, mais...
Qu'on comprend que c'était
qu'on comprend que voilà à l'époque ça a été écrit
c'était
comme
2001
ça.
Quoi
voilà ouais. C'était c'est voilà donc
mais
c'est
à
pas,
refaire
c'est pas...
on est content qu'aujourd'hui en 2022 les choses aient plus évolué
bah, là où le club des babysitters est beaucoup plus inclusif hein,
on y viendra plus tard dans les recos
mais ouais en tout cas c'est un super roman pour un roman jeunesse qui quand même aborde énormément de thématiques quoi on a le côté roman d'apprentissage en fait où effectivement elles évoluent toutes plus ou moins quand même, il y a ce côté bah, passage à l'âge adulte, il y a les relations familiales, les relations amoureuses, les relations amicales, la première fois, bon, qui se passe pas toujours bien, mais en plus, voilà, c'est pas non plus un truc gnangnan, puisque, bah, voilà, on l'a dit, on a quand même le personnage de Bailey qui a un cancer.
Et qui meurt, ouais, je sais.
Mais surtout, moi, je trouve qu'un truc que j'aime beaucoup avec ce bouquin, c'est qu'il évite énormément de clichés de romans pour ados qu'on a souvent, qui est qu'il y en a aucune qui se fight parce qu'elles sont amoureuses du même garçon.
Oui,
il y en a aucune qui abandonne les trois autres parce qu'elle devient populaire et qu'après elle se rencontre au monde du
cinéma. En fait, il n'y a pas de rivalité entre filles.
Ouais, oui, c'est hyper.
C'est un très bon roman d'initiation pour ça, je suis assez d'accord.
Il y a beaucoup d'écueils que tu trouverais dans d'autres bouquins que là, il n'y a pas. Vraiment, je me dis, encore une fois, oui. Pour les maintenant en 2022, t'es une ado qui lit ça, peut-être que tu trouverais pas autant ton compte.
Mais pour nous, c'était quand même
mais
vachement
moi,
bien.
C'était révolutionnaire. Hein.
Ouais,
wesh,
je suis assez d'accord
avec
toi.
Ouais. Du coup, est-ce que vous avez aimé cette lecture?
Ah, de ouf.
Oui. J'ai trop aimé le relire en plus. Ouais. J'ai relu des passages dont je me souvenais.
Moi aussi.
Et ça revient, t'es là genre.
Moi, les citations en début de chapitre.
Ah oui, alors excusez-moi, on n'a pas parlé d'un truc hyper important qui est l'enfer, excusez-moi. entre chaque chapitre, plus ou moins, il y a des citations qui sont en plus écrites sur genre un truc de jean là dans
oui,
le bouquin.
Oui, très 2000.
Et alors, en tant que grande fan de citations, c'est-à-dire que vraiment, genre, moi, l'époque Skyblock, tout ça, c'était ma cam.
Sur Insta de Flore, c'est que des citations de chansons.
Ouais, je suis insub comme ça, toutes mes photos profil Facebook quand j'étais au lycée et tout, insub comme ça. Et là, je me dis, mais elle choisit des citations, mais nul à chier, je suis désolée, mais il y a tellement
et
mieux.
Et surtout, pourquoi utiliser la police de Accessorize?
C'est
une vraie question.
Ah bah ça, c'est année 2000,
les éditeurs français, pourquoi?
Non, mais clairement, mais c'est juste, ouais, je trouve qu'elle fait des chouettes citations qui sont regrettables, voilà, que je pense qu'on pourrait faire mille fois mieux.
Il
voilà.
Y a quand même un moment, il y a une citation de Tolkien.
Non, mais il y en a quelques-unes qui sont bien.
Toi, t'as bien aimé Victoire, je le sens.
Il y a des
mais
gens.
Ouais, moi, quand j'étais ado,
non, mais j'adorais,
je vivais
j'adore,
pour ces citations.
Moi aussi,
hein.
J'adore, mais maintenant, je me dis, en tant que grande fan de citations, je peux t'en trouver mille fois plus. Attends,
genre, là,
t'en as une.
Tu fais une lecture dramatique. L'amour, c'est comme la guerre. On sait quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Il y a écrit proverbe.
Ah, d'accord.
Et je vous jure, c'est la police d'Accessorize.
Merci pour l'humiliation.
Non.
Est-ce que tu m'as écrit ça dans mon agenda, Victoire? Parce que rappelons quand même que pour le fun fact, Victoire m'écrivait des citations chaque page de mon agenda.
Quand on était au lycée, ouais. j'étais une niaiseuse comme
girly,
ça.
Oui. Moi aussi, ok, super.
Non mais moi j'ai des 13 citations, mais c'est juste que c'est un des énièmes trucs qui a mal vieilli.
Mais ça,
vieilli,
j'avais
quoi.
11 ans, tu vois.
Est-ce que t'écrivais les citations de jeux d'enfants ou pas?
Non.
Ok, ça
j'ai jamais aimé les jeux d'enfants.
Mais ok, c'est bon, c'était un test.
Par
c'était,
contre, tu as répondu. Des fois t'es le pare-brise, des fois t'es le moucheron. Ça j'aime bien.
Non mais je me souviens que ça m'avait grave marqué quand j'étais jeune, j'adorais ouais, ces
aussi.
Citations mais...
Par contre, alors parlons d'un truc, ce livre n'est absolument pas accessible aux personnes qui sont soit dyslexiques ou ont un trouble de l'attention. La police d'écriture de Carmen, mais... j'ai cru que j'allais me flinguer.
Elle change tout le temps toutes les polices quand elles écrivent et tout, mais oui. J'aimais trop quand j'étais jeune.
Ah ouais, mais non, mais regardez, alors attendez, bon c'est pas du tout radiophonique que je suis en train de faire, je vous montrerai plus tard, mais la police d'écriture de Carmen,
oui,
celle
c'est
qui
des
savent,
petites...
savent.
Oui, parce qu'en fait elles écrivent des lettres c'est au des fil petites... du livre et du coup chaque fille a sa propre police. Oui.
C'est des petites pattes de mouche, c'est un enfer à lire.
Ouais, c'est terrible.
Peut-être que dans les rééditions, parce que ça c'est une vieille édition, hein, peut-être que depuis Gallimard, ils ont modifié tout
je
ça.
Reconnais, hein. Je reconnais l'ancienne édition, je l'aime trop.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu émotionnel de l'avoir entre les mains. Mais oui, non, donc du coup, c'était... Voilà. Ah, un dernier truc sur le livre avant qu'on raccroche. on n'a pas le droit de dire qu'on est grosse quand on a le jean.
Oui, bah parfois on est juste grosse. Oui, là c'est pareil, c'est pas très radiophonique.
Surtout
ce qu'on
ils
fait,
arrêtent, ils, arrêtent, pas, ils arrêtent pas de dire Carmen, elle est pas grosse, mais elle rentre pas dans les robes.
Oui,
elle
mais est... tu vois, moi je trouve que non, quand même, elle le dit à un moment, tu vois, quand elle fait les essais, elle dit bah ouais, j'ai un gros cul. Et
oui,
alors,
non mais voilà.
C'est... Elle s'accepte quand même pas trop mal.
Elle s'accepte au bout d'un moment, mais le livre tone down toute espèce de d'acceptation, tu vois, genre ah, mais je peux. Ah, on a interdiction de dire qu'on est grosse. Et le mot grosse est épelé. Donc
oui,
c'est
G-R-O-S-S-E. Et t'as interdit de le penser aussi. Et c'est vrai, mais ça, c'est pareil.
Oui, mais tu vois, mais oui, mais sauf qu'à la fin, finalement, quand elle va au mariage de son père, et ben, elle met le jean magique. Elle met pas la robe qui était prévue à la base
oui.
pour elle.
Parce
finalement,
que ça, on rentrait pas dedans. Donc...
mais bon, il y a une question émancipation. Mais oui, c'est vrai que ça ça a un peu vieilli.
Ça, c'est pareil, oui, je pense qu'on le ferait plus aujourd'hui.
Non, on le ferait plus aujourd'hui. Mais en même temps, ça me choque pas pour les années 2000, malheureusement.
Pareil.
Et toi, Pascal, t'as aimé cette lecture?
J'ai bien aimé, en vrai.
Oui.
J'ai trouvé ça sympa. Après, j'ai pas du tout le côté nostalgie de l'ado que j'étais, puisque j'ai pas du tout lu ça quand j'étais petite. Donc,
mais du coup, moi, je suis plaisamment surprise de voir que si tu lis ça quand t'es plus âgée, tu peux quand même passer un bon moment, tu vois.
Oui, voilà, c'était sympa. C'était pas la lecture du siècle, mais...
Oui, je me doute que c'était...
Voilà,
y a des choses... Si tu me dis c'est le meilleur roman que j'ai lu cette année, je serais là...
C'est pour ça qu'il y a des histoires qui m'ont saoulée. J'étais en mode, c'est bon, quoi, franchement.
Oui, c'est vrai, je pense que quand t'es un peu plus âgée, t'es un peu en mode...
Vous avez un peu le souvenir, tu vois. Oh là là, oui, tu te souviens de quand tu l'as lu quand t'avais 15 ans, quoi, mais...
Ouais, bah moi aussi, sans surprise, j'ai vraiment adoré le relire. C'était que du bonheur. Voilà. Le roman 4 filles, un jean a reçu un succès immédiat à sa publication. Il a reçu beaucoup de bonnes critiques pour sa dépiction d'une belle amitié féminine, des situations familiales et amoureuses authentiques et des voix d'adolescentes uniques. Le roman a été bien sûr dans la liste des best-sellers du New York Times et en 2002, il a figuré dans le top 10 de l'année des romans pour jeunes adultes de l'American Library Association. Donc voilà, énorme succès tant public que critique. Il est devenu le premier tome d'une série, puisque 4 tomes, comme on l'a dit, ont suivi cette publication, dont le dernier est sorti en 2012. Pour l'anecdote, Anne Brashers dit qu'elle n'a pas basé les personnalités des filles sur ses propres amies, mais elle admet qu'elle a utilisé un peu des composites de personnalités de gens
qu'elle
connaissait.
Et je crois qu'elle dit
qu'elle n'avait pas d'amis, les gars. C'est parce qu'elle a volé un scénario.
Elle a piqué tout chez tout le monde, en fait. Ouf.
Mais il n'y a pas un truc... Moi, je crois que j'avais lu, mais je ne sais pas si je l'ai inventé, qu'elle avait dit qu'elle était le plus proche de Carmen.
Exactement, ouais. Parce que... Mais pour la raison, alors, parce que Carmen est catholique et...
Super. La personnalité la plus pourrie.
Exactement.
Je me suis retrouvée parce qu'elle est catho.
Et parce
que c'est pas du tout
la
important
raison.
Dans la personnalité de Carmen d'être catho.
Et parce que ses parents sont divorcés.
Oui, ça d'accord, mais...
Donc Anne Brashers n'a pas de personnalité, vous l'avez...
Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de... Elle n'a rien.
C'est juste une écrivaine dans une cave qui écrit des bouquins.
Enfin, là, elle est millionnaire, donc je pense
non,
que ça va
fait,
très bien.
Non, en fait, elle a des écrivains dans sa cave.
L'enfer. Et du coup, suite à ce succès, en 2005, 4 filles, un jean a été adapté dans un film réalisé par Ken Kwapis. Et nous vous passons la bande-annonce tout de suite.
Nous étions les meilleures amies du monde et allions nous séparer pour la première fois cet été-là.
C'est pas mal ça.
Vas-y, essaie-le. Oh.
Mais un jean.
Voilà.
Allait servir de lien entre nous. Vous pensez que si ce jean vous va à toutes les trois, tout ça va aller dedans? On se le partagera équitablement cet été. Il voyagera parmi nous.
J'ai bien peur qu'on se soit trompé au sujet du jean. La seule et unique fois où je l'ai porté, j'ai failli me noyer.
Je parle pas très bien grec.
Ben, il va falloir remédier à ça.
Ça tourne.
tête qui te fait une assistante.
Écoute, j'ai ce qu'il faut comme ami. Et même si elles m'ont planté cet été comme une vieille chaussette, je cherche pas une remplaçante.
C'est qui, lui ?
C'est interdit d'avoir une histoire avec un entraîneur.
Je joue attaquante.
J'ai cru remarquer.
J'ai pas dû passer plus de 4 jours de suite avec toi depuis que j'ai 10 ans. Qui c'est ça ? Ta voisine ?
J'ai une surprise pour toi. On va se marier.
Oh, Seigneur. Avec un peu de chance, il nous reste du tissu.
Je suis en colère contre mon père. Pourquoi j'ai tellement de mal à le dire ?
Mets-le. T'auras plus de courage avec.
Depuis que je suis née, tout le monde me voit d'une certaine façon. Toi, qu'est-ce que tu vois ?
4 filles et un jean est donc un film pour adolescents sorti en 2005 et réalisé par Ken Kwapis. Donc Ken Kwapis est un réalisateur et producteur américain qui a travaillé pour le cinéma mais surtout pour la télévision. Ah. Aujourd'hui, il est célèbre pour avoir réalisé le premier et le dernier épisode de la série The Office.
Oh, ah ouais ! Juste le premier et le dernier ?
Ouais.
C'est random voilà. Quoi ? Tu fais venir
après,
un
il était aussi producteur. Mais en fait il a été embauché en fait, pour donner le ton de la série au début.
Ouais, c'est
sur le premier épisode.
Ils ont quand même changé.
Tu vois, bah c'est ouais. Comme Mindhunter.
Oui, c'est pour ça que ça me fait rire. Genre, au dernier, ouais, 9 saisons, elle n'a pas un peu, ouais, bro, tu peux revenir pour le dernier, s'il te plaît, on a besoin de toi.
C'est pour conclure, okay. Quoi.
Ah, cela dit, grand écart stylistique, hein.
Bah, Vandamme is shaking parce que punaise, en effet.
Grand écart.
Bah, après, c'est un peu, j'ai l'impression, un yes man. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de films de commandes. Et typiquement, tu vois, je pense que 4 filles et un jean, c'était une commande. En gros, c'est Warner Bros. Qui lui a confié.
Tu veux dire que c'était pas un projet passion ?
Je ne pense pas. Je ne suis pas certaine que Ken Kwapis était passionné par 4 filles et un jean. En gros, il avait fait un téléfilm en 2003, About a Boy. Qui n'a pas été traduit en France, je crois. Et en fait, suite à ce succès, Warner Bros. Lui a dit, bon bah tiens, on veut faire l'adaptation du 4 filles et un jean, tu vas t'en occuper, quoi.
Okay.
Donc voilà, c'était pas un projet passion, mais il a dit qu'il était très attentif au fait qu'il y avait des fans très hardcore de ce roman, et qu'il voulait absolument...
des nuées de jeunes filles en
fleurs. Voilà, les préserver, ne pas leur faire du mal.
Et
voilà, et du coup, il a dit, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que même si les histoires et les personnages sont très différents, j'ai pu m'identifier avec chacun d'eux.
Oh, bichette, Ken, j'adore.
On aurait dû inviter Ken Kwapis.
ça
a rappelé un film qui a eu un profond impact sur moi quand j'étais adolescent, American Graffiti.
Je connais pas.
Bah, moi non plus. Mais en gros, il veut dire qu'il n'y a pas de méchants, c'est juste des gens qui font des choix, parfois bons, parfois mauvais, et puis c'est la vie et c'est comme ça.
C'est beau.
Putain, quel philosophe. Je suis sûre qu'il est cité dans le dernier bouquin.
De où ?
Il n'a pas réalisé le 2, hein, en tout cas.
Ah. Oui, c'est vrai, c'est une meuf, je crois, qui a réalisé le 2.
Tout à fait. Au scénario, on a deux femmes. On a Delia Ephron, qui était aussi la scénariste de Nuit Blanche à Seattle.
Ephron ?
Et je me suis demandé si c'était
la sœur de Nora
Ephron ou pas.
Bah, je sais pas.
Parce que Nuit Blanche à Seattle, c'est Nora Ephron.
Bah, oui, elle réalisait. Bah, en plus, elle a travaillé aussi sur Ma sorcière bien-aimée.
Oh, elle est dans la famille.
Oh my god! Parce que chez nous, c'est notre queen, bah, Nora Ephron.
Même si, attention, je dis un truc controversé, mais moi, c'est pas mes rom-coms préférées, Nora Ephron.
Elles sont excellentes, celles de Nora Ephron.
Elle a aussi scénarisé You've Got Mail. Enfin, You've Got. Vous avez un message?
Oui, mais scénarisé.
Scénarisé, ouais.
Écoute, à méditer, je crois que je préfère Nancy Meyers parce que The Holiday, c'est Nancy Meyers.
Ah ouais, en vrai,
oui. Je vois Pascal qui s'illumine là.
Écoute, je crois que j'aime les deux.
Non, mais ici, on ne compare pas les femmes
une
entre elles.
Une glace, vanille, chocolat, je mange les deux.
On adore les deux.
Et c'était coécrit aussi par Elisabeth Chandler, qui est aussi, donc là, c'est un peu mon kink, scénariste du film La Petite Princesse d'Alfonso Cuarón, qui est sorti en 1995, Princesse Sarah.
Oh, j'adorais Princesse Sarah quand j'étais petite.
Toute mon enfance.
Bah, il y a eu un film en 95 par Alfonso Cuarón et qui est un des piliers
Cuarón,
de ma jeunesse.
C'est un film. Alors, là,
mais Alfonso Cuarón, je connais que le dessin animé manga là. Enfin,
moi aussi.
Bah, le film est exceptionnel. Vraiment, vous devriez le voir.
Princesse Sarah.
Ah, c'était trop bien.
Tellement triste, horrible.
Mais oui, en fait, pire dessin animé. Et à pire que les malheurs de Sophie.
Bien pire.
Elle se fait genre maltraiter dans son orphelinat. La méchante s'appelle Lavinia. Il y a rien qui va. Tout est mauvais.
Et moi, j'ai tout regardé. Au moins 5 fois. Et oui.
Je pense que je suis de ta team. Je suis un peu contente.
Ok, donc si vous avez un podcast sur la princesse,
n'hésitez pas à nous inviter.
Créez-le peut-être. Là, je pense que vous êtes lancé.
On regarde un épisode et on fait un épisode de podcast.
My god. Au casting de 4 filles et un jean. Alors, on va peut-être pas énoncer tout le monde, mais il faut bien sûr dire les 4 actrices principales. Alors, pour le rôle de Bridget, il faut savoir qu'une autre actrice avait été envisagée, Olivia Wilde.
Quoi ? On est trop bon public. À chaque fois, tu nous dis un truc, c'est on hurle.
Mais
non. Olivia Wilde. Je trouve que Blake Lively est tellement parfait.
Ouais, Blake Lively, oui. C'est le standard
parce
de
que,
Bridget.
Mais parce que je trouve qu'en plus, genre... comment dire, Olivia Wilde, elle a vraiment ce truc de sex appeal hyper.
Moi j'adore Olivia Wilde.
Je l'adore aussi. Mais tu vois, même quand elle était jeune et qu'elle a joué dans des séries genre The O.C. et tout, elle est très... Enfin, sexuelle en quelque sorte, tu vois. Alors que je trouve que Blake Lively, elle est très belle, très charmante, très sexy, mais elle a ce côté genre un peu genre petit, encore
délurée, jeune,
oui, un
nature.
Peu genre fille, jeune, rigolote.
Non, puis même je trouve que Olivia Wilde, elle a une beauté qui est beaucoup moins dans les
sauvage.
Standards. Ouais, en fait, elle est, elle est quand même.
Elle est plus lisse.
Ouais, c'est ça.
Genre pour Bridget, moi je trouve qu'elle est trop lisse pour Bridget.
Ouais, je suis assez d'accord. Elle a une beauté de très adulte en fait. Genre elle a une beauté à la Angelina Jolie, à ses personnages
ouais, 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 tu vois. Complètement. Alors les sirènes.
Bridget c'est Bridget. Blake Lively, elle fait plus ado ouais. À ce moment-là, c'est quand même.
Bah, elle avait 16 ans en fait.
Et surtout à cette époque-là, c'est Blake Lively, mais c'est Blake Lively pré rhinoplastie. En vrai, surtout qu'il faut le dire, non mais pré rhinoplastie. Pré augmentation mammaire, pré tout ce que les stars se font.
Après c'est bien fait,
son nez.
Moi je me suis dit ça se voit pas tant que ça.
Ouais. Mais moi je trouve que ça se voit vachement sur son nez, tu vois. Elle
ah
a
ouais.
Vraiment un nez beaucoup
mais t'es
plus.
Mais tu es un peu obsessed avec les nez aussi.
Non, mais aussi j'adore Blake Lively, mais genre
oui,
elle a
non,
maintenant
mais ça se
Blake
voit,
Lively,
mais c'est pas si choquant,
Blake
il y a des gens ça
oui,
se voit
oui,
plus.
Oui, mais je trouve ouais. Que Blake Lively c'est quelqu'un elle a toujours été incroyablement belle, mais quand elle était plus jeune, du coup, je trouve qu'elle a une tête plus girl next door, mais
oui.
Mignonne.
Ma question,
alors
c'est
que
est-ce que tu
as vraiment genre le nez parfait.
Bah, c'est ses cheveux, voilà. C'est quand même, bah, c'est comme Bridget. Hein. Bridget, sa beauté, c'est son ses cheveux.
Des extensions de malade
est-ce
dans le film, ça se voit.
Est-ce que tu es obsédée par Blake Lively à cause de Taylor Swift?
Ouais, c'est vrai qu'elles sont super potes. Non, j'ai toujours été. Tu sais pourquoi je suis obsédée avec Blake Lively? Attention, tu vas adorer cette anecdote parce que j'écrivais sur un forum de RPG, mon avatar c'était Blake Lively. Voilà, je sais que toi ça te parle.
Gossip ouais. Girl, Gossip Girl quand même.
Ah oui, Gossip Girl.
J'ai jamais été trop. Moi, j'ai pas été.
Et oui.
J'ai réussi à m'en tirer intact. J'ai
après,
d'autres choses qui m'ont mentalement détruit.
Il y a une rom-com avec elle, The Age of Adaline.
Oui,
ouais,
qui est
peut-être
ouais,
le faire.
Pas ouf.
Ça, dingo.
Incroyable.
Non, pas incroyable.
Non, mais ça, il faut le dire, sa filmographie est vraiment pas incroyable. Je trouve que c'est quelqu'un, elle a l'air trop sympa, trop rigolote. Elle est mariée avec Ryan Reynolds, donc je pense qu'elle a un bon humour aussi. Mais en tant qu'actrice, c'est une bonne actrice, mais elle a jamais été cassée dans des trucs incroyables. Son meilleur rôle, c'est Bridget. Voilà.
C'est pas une si bonne actrice en plus.
Oui.
Elle est correcte, quoi.
Voilà.
Désolée, Blake, si tu nous invites quand même au
fais-nous des cupcakes, elle cuisine hyper bien. Voilà.
En tout cas, c'est son premier rôle au cinéma. Et ouais, en fait, quand elle a passé l'audition et qu'elle a commencé à faire des lectures avec les autres actrices, ça a tout de suite matché. Et voilà.
On n'a même pas dit le nom des quatre actrices du coup, parce
bah
qu'on
non.
Est parti
non,
en temps.
On fait un par un, parce que...
Un par un.
Okay. Ah, ok, my bad.
Du coup, pour le rôle de Tibi, il y avait aussi une autre actrice qui avait été pressentie. Donc là, on a Amber Tamblyn, mais... Il y a une autre personne qui a été considérée très années 2000, Hilary Duff.
Alors pas du tout.
Oh my god.
Alors pas du
la
tout.
Vois ouais.
Pas du
la
tout.
La vois
enfin,
pas du tout.
Quelle idée.
Non, bah non, en fait.
Elle fait heureusement que quelqu'un d'autre a chopé le casting.
Parce que pour
hein.
Le coup, je trouve qu'elles sont toutes trop bien castées.
Ouais.
Oui.
Ouais.
Vraiment très très bien.
Oui, oui.
Mais elle, par contre, je la connais pas trop.
Elle est réalisatrice. Elle fait des trucs genre des documentaires.
Elle a écrit un livre aussi.
Et elle est très investie dans le féminisme, dans Me Too. Elle a été pas mal investie.
Okay.
Fun fact, parce que les quatre actrices sont toujours potes et je trouve
mais
ça
j'ai
trop
vu ça.
Mignon. Je trouve ça incroyable.
Ouais,
j'adore
ça,
les histoires
mignon,
comme ça
ouais.
Parce qu'ils n'ont pas eu tout le même niveau de succès.
Elles vont à leur mariage.
Oui,
elles,
oui c'est
ouais.
Trop mignon.
Moi,
j'adore
selfies,
les trucs
tout,
comme
ouais.
Ça. Moi, je suis hyper cliente.
Moi, j'ai ça avec les meufs de Desperate Housewives qui se voient
voilà.
Encore ça.
Ah,
c'est
vrai, elles sont vraiment potes. Attends,
alors, mais pas Suzanne
Tetch. Voilà.
Dans le rôle de Carmen, on a America Ferrera.
Oui. Je l'aime d'un amour fou.
Moi aussi, je l'aime trop. Trop
content. Cette meuf, pas Ugly Betty.
C'était avant ou après Ugly Betty?
C'était avant Ugly Betty.
Elle a quel âge quand elle joue? Parce que moi, je trouve qu'elle fait un peu plus vieille.
Dans le film, elle a 19 ans.
Bah c'est plus vieille. Moi, je trouve que, franchement, il y a un moment, elle est arrivée, j'ai dit, on dirait qu'elle a 30 ans. Enfin,
oui, mais tu vois, c'est aussi parce que, genre, c'est la plus formée physiquement et du coup, elle a plus un
ouais,
corps, entre guillemets, d'adulte.
Ça sent. Elle a pas 30 ans, elle a
19
ans.
Mais je crois
qu'elle fait quand même plus âgée, je crois.
La plus âgée, c'était Alexis Bledel, je crois.
Oui,
qui avait
oui mais elle,
22
elle
ans.
Était bébé jusqu'à ses
oui.
40 ans. Enfin,
je me suis vachement demandé, la meuf, vraiment, j'ai des trucs, mais est-ce qu'elles ont vraiment tourné en Grèce? Et du coup, est-ce que Alexis Bledel n'était pas avec les autres sur le set? Et du coup, comment elles sont devenues copines si elles n'étaient pas sur le même
alors,
set?
Non,
voilà.
Alors,
mais questionnement
fait,
de vie.
Pour les scènes effectivement de Lena, ils ont été tournées en Grèce, mais en fait, sinon la plupart des studios c'était en fait à Vancouver. Et donc, par exemple, la scène de la noyade, on va en reparler après, mais c'était en studio, c'était pas du tout.
Oui,
en Grèce.
Bah oui, non, oui. C'est
donc oui, elle était bel et bien avec le reste du casting. Et oui, ce qui est drôle, c'est que donc ces quatre actrices, en fait, elles ont aussi toutes eu un rôle principal dans une série, que ce soit Gilmore Girls, Gossip Girl,
oui.
Ugly Betty. ou
c'était... Mais ça c'était après Guy.
Attends, Amber Sabine, elle a été dans quelle série?
Elle a joué dans Doctor House.
Et John of Arcadia, enfin le monde de John.
Ah oui.
C'était, ça a été annulé au bout de 2 saisons, hein, donc c'était pas non plus un franc succès.
Oui, mais elle avait un bon rôle dans, enfin un bon rôle, elle était récurrente dans.
En tant que fan hardcore de Doctor House quand j'étais jeune, je vois très bien. Je me souviens quand je l'avais vue, j'étais là, oh my god, c'est elle, c'est Tibi,
c'est Tibi.
Et du coup, c'était drôle parce que pour en gros que leur alchimie et que leur amitié fasse crédible à l'écran, Ken Kwapis les a invités à un après-midi shopping. Il leur a filé $75.
C'est tout ? Et il aurait les années 2000, mais à l'époque, tu pouvais acheter une maison avec ça.
Et il les a envoyés en friperie, en gros. Et il leur a dit, allez, amusez-vous. Et trouvez des tenues pour vos personnages.
Okay, bon, sympa.
Sympa, un peu ravant.
En vrai, je trouve que leur alchimie, c'est... Enfin, c'est ouf, parce qu'en plus, ils n'ont pas beaucoup de scènes ensemble dans le film. Mais je crois qu'elles étaient là, genre, elles sont meilleures potes. J'y crois, moi, j'y crois à fond. Hein. Encore une fois, très...
Voilà, et sinon, le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il rend hommage au roman dès le générique avec la scène, quand même, confection du jean. Ça, incroyable. Je me suis dit, c'est très année 2000 quand même.
L'ouverture.
Ouais, grave.
L'ouverture avec. Je crois qu'il y a la même police accessorize aussi.
Exactement.
Pour le titre du film.
Ouais, pour le titre du film, ça pique les yeux. Hein.
Ouais, de ouf.
On sent que c'est 2005.
On n'en ressort pas indemne.
Il y a aussi les transitions entre les scènes. Ça, faut en parler, hein. Les transitions, on voit la poste.
Ah oui.
Alors comment ça se passe à la poste?
On n'en a pas assez parlé dans le livre, mais aussi dans le film. Il y a quand même un truc qui est incohérent de ouf dans l'histoire.
Elles ont beaucoup d'argent.
C'est que, déjà, les meufs, elles arrivent à envoyer entre la Grèce et le Mexique dans les années 2000 un truc à la poste qui est reçu en 2 jours.
Qui ne se perd pas.
Et qui ne se perd pas.
Moi, j'envoie une carte postale.
Je suis désolée. Hein mon carte blanc que j'ai acheté sur Zalando. Il est perdu, j'ai dû le recommander. Voilà, non mais genre jamais. Moi, j'ai personnellement une malédiction qui est qu'à chaque fois que j'achète un truc qui coûte cher sur internet, c'est assez rare, la poste le perd, c'est-à-dire mon cardigan et le sextoy que j'ai acheté pendant le confinement.
Ouh, c'est le podcast des révélations.
Oh non, ceux qui écoutent comment le savent.
Voilà, j'ai pas de filtre, c'est mon problème.
Non, ouais.
C'est mon côté Bridget. Hein.
Non, on va dire ça.
Et après, on enchaîne sur une intro, pareil, qui est hyper fidèle au livre, puisqu'on a la voix off de Carmen. Et j'ai trouvé que, pour le coup, le montage du début, où en fait, ça alterne entre les flashbacks de quand elles sont petites et leur vie actuelle, franchement, je me suis dit, c'est pas mal en termes de comment tu racontes une histoire, parce que je trouvais qu'en très peu de temps, le film réussit à te poser à la fois leur personnalité, à la fois leur contexte familial et la dynamique de leur groupe. Mmh. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Ouais. Enfin, alors... Tu vois, ça pourrait être hyper poussif avec 4 personnages, de les présenter les unes après les autres, ça peut être un peu chiant.
Les mères dans la séance de fitness.
Voilà, et là, c'est fait assez vite et bien, quoi.
Mais elles sont amies principalement parce que leurs mères ont accouché en même temps.
Ouais.
Ça, faut le rappeler. Moi, j'avoue que j'ai l'impression qu'elles sont amies que à cause de ça. Mais
tu crois pas en leur amitié?
En fait, elles sont quand même toutes ultra différentes. Est-ce que si elles s'étaient rencontrées plus tard, elles
seraient bien probablement.
Après, c'est ça qui rend le sens.
Parce qu'elles ont grandi ensemble.
Oui, c'est vrai. Mais elles sont tellement différentes, tu vois, que
Flore et moi, on aurait été, on le dit souvent, si on avait été au lycée ou au collège ensemble, on ne serait pas du tout entendus.
Ouais.
Pas du tout. Alors que voilà. À l'âge adulte,
Moi, je trouve que je crois en leur. Enfin, non, pour moi, et en plus le côté genre elles sont différentes. Franchement, moi, je me souviens mes potes mais même mes potes actuels, tu vois, on en a plein, on est très différentes en termes de personnalité. J'ai l'impression.
Bah rien que nous deux, genre on pourrait pas tenir un podcast si on avait la même personnalité.
Alors tu sais que pourtant t'es l'une de mes potes qui me ressemble le plus, hein.
Bah.
Non, mais j'ai l'impression que les potes qu'on se fait, on va dire plus vieux, nous ressemblent quand même un peu plus.
Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Avant, non, mais de toute façon, il y a vraiment un truc où en effet elles ont ce truc qui les garde, et d'ailleurs un peu plus tard dans les autres romans, elles ont plus des difficultés parfois à rester amies parce que leur vie les
sépare. La vie les sépare
un peu plus. Non, mais elles restent toujours amies, ok.
Et leur entourage aussi va plus leur ressembler, elles vont se faire des amis dans leur fac. Exactement.
En plus, elles viennent aussi quand même de milieux très différents.
Ouais, de fou.
Par exemple, Bridget, la meuf est ultra riche en fait.
Bridget ?
Mais oui, non. Bridget, si, elle est super riche. Si.
Son père est chef d'entreprise. Hein.
Son père, et elle va dans un camp de foot au Mexique.
Ah, c'est drôle parce que moi je pensais, tu vois, par exemple, moi j'aurais plutôt dit c'est Lena qui est ultra riche. Ses parents sont avocats en mode.
Ouais, mais tu vois,
Lena c'est normal, je pense.
Plus middle class et middle class, quoi.
Ouais. Non, c'est vraiment Bridget, c'est un peu là.
Et Tibi, pareil, middle class, ses parents sont avocats et qu'ils ont 3 enfants. Mais par contre, Carmen, c'est un peu moins, quoi.
Oui, mère célibataire. On a un peu aussi, encore une fois,
c'est le personnage de couleur. Allez.
Ouais, c'est
vrai que c'est un peu cliché, mais ouais. Mais en tout cas, bon, le film présente bien tout ça. Et surtout, c'est marrant, c'est que finalement, la scène où elle achète le jean, plutôt que ce soit Carmen qui fasse ça dans son coin, elle le trouve ensemble et elle l'essaye direct. Et alors, c'est marrant, je sais pas si vous avez remarqué, le magasin vintage, il s'appelle Déjà Blue.
Déjà Blue.
La chanson d'Olivia Rodrigo.
Déjà Blue.
Ah ouais, non, j'ai même pas fait... Mais tu vois, j'aime trop, moi, la scène où elles font leur shopping ensemble. Je trouve qu'elles ont trop leur alchimie, la façon dont elles se parlent. Le moment où t'as genre Bridget qui... non, c'est pas Bridget, c'est Tibi qui va essayer le piercing. Et que du coup, t'as sa pote qui dit « Non, mais attends, lui fais pas prendre un piercing. » Enfin, je crois que c'est Carmen qui dit à Lena « Non, mais surveille-la, qu'elles prennent pas le piercing et tout. » Genre, je trouve que tu vois directement grave les liens qu'elles ont entre elles. Et ça les présente très, très bien, je trouve.
Oui.
Et avec après, là, faut quand même dynamiser. Tout de suite s'accrocher et croire au jean. Hein. Parce que... Oui. Quand même, là, tu les vois, et là, on n'a pas le côté, on les imagine quand on lit le livre. Là, on les voit physiquement. Elles sont quand même toutes d'une morphologie différente, de taille même. Il y en a des grandes, il y en a des petites et tout. Mais c'est le jean, et là, tu dis, bon, les gars, ok, on va se mettre dans la tête que c'est ok. Mais...
Et encore une fois, encore plus chaud, parce qu'elles ont vraiment le jean leur va pareil, dans le sens, genre, il les moule, et tout. Et c'est
le
un
jean
genre...
n'est pas beau en soi, par contre. Hein.
Ouais, année 2000.
Enfin, il est très année 2000.
Il est atroce.
Merci.
Voilà. Moi, j'ai pas peur de dire les termes.
Moi, j'ai demandé, il vous va super bien. Moyen, en fait. Mais...
Ouais, mais année 2000,
je crois qu'il n'irait à personne, en fait.
Et encore, elles n'ont pas encore commencé à écrire dessus. Parce qu'après, moi, je le vois craper, le jean, après.
Ouais, bah, dans le... Ça m'a beaucoup intriguée parce que je sais que du coup, c'était pas, elles avaient chacune leur Levi's en fait, les actrices évidemment, c'était pas évidemment. Le même. Mais que du coup,
quoi je suis très claire.
Mais dans le 2, elles ont le jean est décoré parce que du coup, c'est en mode il s'est passé et tout. Et du coup, je suis là, le département a dû faire genre 4 fois le même jean décoré parfaitement.
4 fois,
pareil.
Oh baby girl, no, au moins 16 fois.
Ouais, c'est vrai, les accessoiristes, oui. On les embrasse.
On les embrasse.
Un métier très important dans le cinéma.
Et fun fact aussi, la fameuse scène où du coup, on voit la culotte de Blake Lively quand elle essaye le jean, alors ça a été classé dans les 5 scènes de culottes iconiques par Shondaland.
Scène de culotte.
Scène de culotte.
Ça dit ça.
Excuse-moi, mais c'est quoi les autres?
Oui, c'est quoi les autres?
Alors, je ne les ai pas toutes notées, mais il y a notamment celle de Cameron Diaz dans Charlie's Angels.
Ok, waouh.
Voilà, bah écoute,
c'est la numéro 1, ça.
Je ne connaissais pas cette liste non plus. Il y a aussi Garden State, la culotte de Natalie Portman. Écoutez, je ne connaissais pas cette liste. Shondaland de la fée, c'est en ligne.
Je me rends compte que je ne connais aucune de ces scènes de culotte.
Tu connais pas cette scène de culotte iconique, Clara?
Je suis désolée, putain, tu veux arrêter le podcast?
Je comprends.
Ouais, mais en fait, t'as vraiment pas de culture.
Voilà, c'était l'anecdote cinéma, tu vois.
Waouh, ouais, et quelle anecdote, merci Victor.
Putain, merci Victor.
Et après, ouais, on a de nouveau la scène du fameux pacte du jean magique. Et pareil, celle-là, elle a été faite presque de manière un peu fantastique, puisqu'on a les bougies et la caméra qui tourne. Et d'ailleurs, tu sais que cette scène, j'étais regardé des commentaires d'associations de parents américains sur ce film. Et il y en a un qui a dit « Le film, ça va globalement, à part la scène de sorcellerie.
» Alors qu'on a envie que ça parte là-dedans.
Donc la culotte de Bridget, tout va bien.
Tout va bien, mais la sorcellerie, c'est non.
Et alors que Anne Brashard, je vous le rappelle, est catholique.
C'est vrai, oh my god. C'est ça qu'elle a de commun avec Carmen. Oh my god.
C'est ça. Et après, en fait, finalement, le film suit globalement l'intrigue du livre dans le sens où on a chacune des scènes qui s'enchaînent, etc. Mais il y a quand même une intrigue qui a choisi
la Pascal est là. La Pascal,
alors,
elle est sur le
start. Moi j'arrive, hein.
Allez Pascal, allez, Pascal. Donne-nous tout.
Il y a une intrigue, on se demande laquelle, qui ne respecte pas trop celle du livre.
Alors, Lena arrive à Mykonos. Non, je rigole. Non, mais quand elle arrivait, j'ai cru que
je me suis dit,
ah, ça y est, putain, c'est genre les trucs Instagram. Mais non, en fait, elle arrive à Santorin, qui est aussi un truc très Instagrammable. Et en fait, ce n'est pas du tout la même histoire.
Non, pas du tout.
Là, c'est Roméo-Juliette en Grèce.
Oui.
Puisque elle rencontre Costos, vite fait.
Costas ?
Pourquoi ?
Alors moi, je me suis demandé si en fait, c'était pas parce que c'était le vrai prénom en grec et que si le film avait été fait plus... Parce que pareil, la mamie s'appelle pas Mamita, il l'appelle Yaya. Où je me dis, c'est peut-être le vrai nom de grand-mère en Grèce et que du coup, ils ont updaté avec la vraie façon
tu
de dire en grec. Tu
veux dire qu'ils seraient passés par des sensitivity?
Ouais, leader, exactement. Je me suis dit peut-être qu'en fait... Tu vois, je me suis demandé si c'était ça. Je sais pas, mais...
Non, t'as peut-être raison.
C'est ma théorie, en tout cas.
Moi, ça m'a stressé le Costas.
Mais du coup, là, ils ont rendu le truc ultra romantique,
ouais,
mais beaucoup
gênant,
trop, en fait.
Quoi.
Ouais. La scène de la rencontre, c'est une scène où elle se noie. Oui.
Alors,
cause du jean, elle a failli mourir.
Et la façon la plus ridicule du monde de
elle
la noyade, c'est
dans
pas
l'eau,
possible, cette
et son jean s'accroche à un crochet de
pêcheur. Et il y a vraiment un truc où elle flotte. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la scène de Bella dans Twilight où elle flotte après s'être jetée
par
la fenêtre.
Et elle sort de là, Bella.
Exactement. Elle hallucine, Edouard. c'est un peu pareil. Mais vraiment, moi, le trope de genre, je manque de mourir, il faut venir, le beau chevalier vient me sauver.
Voilà,
moi,
c'est ça, Costos la sauve, et après, elle est toute trempée, donc il lui donne son t-shirt.
Oui.
Trop mignon.
Que dire
voilà. Mais, à part ça, attention, alors je vais peut-être dire un truc controversé, vous me regardez toutes les trois, mais moi, je préfère cette storyline Costos-Lena que la vraie. Parce que du coup, ils se parlent, en fait. Mais ils s'apprennent à se connaître.
Il se passe plus de choses. Mais donc, continuons juste l'histoire. Oui, c'est donc après, elle rentre avec ce t-shirt et sa grand-mère elle dit, mais qui est ce t-shirt? Enfin, où elle le lave. Après, elle dit, mais qui est ce t-shirt et tout. Donc, elle lui raconte vite fait, oui, je suis tombée dans l'eau. Quelqu'un m'a sauvée. Et là, la grand-mère lui dit, mais c'est le fils de la famille ennemie.
Oui,
tu ne peux pas.
Il dit, he's a Dumas. Moi, je me suis dit, oh waouh, he's a Montague.
Et là, c'est parce que son grand-père a volé un poisson. Mais quoi. C'était une histoire de vieux pêcheurs grecs et tout. Et elle dit, c'est la honte, tu ne peux pas voir, tu ne peux même pas lui parler, l'approcher. C'est vraiment l'ennemi de la famille.
I forbid it. Et t'as envie de dire, alors, grand-mère, c'est déjà la première fois qu'on se rencontre, toi et moi. Donc juste, tu vas te calmer un petit peu sur l'autorité.
Mais évidemment, du coup, là, c'est le côté amour interdit. Et ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est un peu plus stylé. Dans l'histoire.
Mais
si
en
ça...
fait, moi, je me suis dit, ils ont dû changer parce que sinon, ça aurait été hyper dur de mettre
en
place.
Bah, sinon, il se passe rien, en fait.
Il se passe rien. Et puis, il y a le truc en mode de l'agression et tout, qui est ultra glauque, en fait.
C'est pas le test.
Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu nul, quoi. Là, au moins, il y a un peu la tension. Oh, mon Dieu, il se voit. Elle ose pas aller le voir. Oui.
Mais lui, tu vois, il est chaud. Il lui dit, tu fais quoi samedi soir? Tu viens danser?
Mais par contre, lui, il n'est pas beau.
Il est pas beau.
Et là, franchement, c'était une énorme déception pour moi. Franchement, j'ai noté pas beau, smile et triste.
Moi, je trouve.
Fleur, notre avis sur les hommes n'a
non,
aucun
non,
intérêt.
N'a pas. Oui, non. Nous sommes lesbiennes.
C'est non.
Non, mais je trouve
vous
que
vous pouvez avoir un avis quand même sur.
Moi,
sur
un avis totalement les... esthétique, mais. Moi,
non, mais tu vois, moi, je trouve qu'il est pas.
Sous certains angles, je me suis dit, ah, là, ça va. Et après, non.
Pardon, moi, je suis désolée, mais disons les vraies choses. Le problème, c'est pas Costos, c'est Eric.
Attends, on y reviendra
on
après.
On y reviendra après, c'est lui qui est moche.
Parce que Michael Raddy, donc celui qui fait Costos, c'était quand même son premier rôle au cinéma. Mais surtout, moi, ce qui m'a stressé, c'est en plus son faux accent grec. Pourquoi
En plus, il raconte
à Lena qu'il a grandi à Chicago. Il dit j'ai grandi à Chicago.
Grow up in Chicago.
Et là, il fait ça avec un énorme accent, genre en mode je roule les R. Mais gros, si t'as grandi à Chicago, ça n'a aucun sens.
Pourquoi tu fais ça?
Tu veux la séduire avec un air tropical? Enfin, je ne comprends
tout
pas.
Tout est faux, en fait. Non, mais clairement, je trouve que le... Mais moi, quand même, j'aime bien qu'ils se parlent, tu vois. Qu'ils
il se passe plus de choses.
Il lui apprend à faire de la veste.
Et surtout, moi, je comprends mieux, du coup, leur relation. Et je trouve que tu peux voir un peu une évolution de Lena qui, du coup, entre guillemets, brave en interdit.
Oui, enfin, attends, l'évolution de Lena, quand même. Alors, au début, elle met des jupes de grand-mère et elle se fait une queue de cheval. Et à la fin, elle met des petites robes à fleurs et des cheveux détachés.
Ça passe clairement par les fringues. Mais
J'avoue, un peu makeover.
Oui,
elle devient un peu Gabriela Montes à la fin. De les petites robes de baptême.
De ouf.
Et pour le coup, c'est marrant parce que Alexis Bledel, elle raconte que du coup, elle a fait quasiment un summer camp pour tourner en Grèce. Elle dit qu'elle a dû apprendre, alors c'est très dur, à conduire une Vespa, monter sur un âne, faire de la plongée. Elle a pris des cours de dessin. Elle dit ils m'ont fait courir partout et tout. J'avais l'impression d'être en camp de vacances, quoi.
Bah, en vrai, moi, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve qu'Alexis Bledel en Lena, elle est très bien cassée, mais c'est parce que du coup, mon problème, c'est un peu Lena. Mais parfois, pareil, c'est comme dans le bouquin, j'avais un peu envie de la tarter.
Ah bon? Elle est comme Mimi.
Non mais moi j'en ai marre des meufs Mimi, je suis désolée.
Non mais tu vois, elle a un peu ce côté genre, avec ses petits yeux, elle est là genre, Costos, et elle cligne des yeux, un peu un Bella Swan vibe, tu vois.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Et elle est moins chiante que dans Gilmore Girls, hein. Parce que franchement,
ah ouais, oh là là.
C'est pas compliqué.
Gilmore Girls, c'est vraiment tête à claque.
C'est le pire personnage de
mais
Gilmore Girls.
Mais tu vois, parfois
non.
J'ai un peu...
Non, c'est
Lorelai. C'est Lorelai.
Lorelai est bien pire.
Lorelai.
Alors, je veux dire, j'ai jamais vu Gilmore Girls.
Moi, je viens de commencer la saison 4.
Alors, avec qui est...
Mais je sais qu'il faut être Team James. Non, Team Rory, quoi, c'est pas ça les noms?
Team Logan. Team Logan, par contre. Mais...
Ah, Logan,
ah non,
voilà,
mais après, les Love Interest.
Voilà, les Love Interest.
Bon, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet.
Bon, bah voilà, donc ça, c'était la storyline de Lena. Du coup, vous validez ce changement globalement ou pas?
Moi,
trop
oui.
J'ai pas d'avis particulier, pourquoi pas.
Vu et m'en tape.
Un gros changement, je valide parce que l'autre était.
Je trouve qu'en fait, c'était peut-être pas nécessaire de se prendre autant la tête, mais ils l'ont fait, écoute, ça marche.
Avec un mec plus beau, ça aurait quand
même. Elle a pas de sœur aussi, par contre.
Oui, elle a pas
de sœur. C'est un peu dommage ça.
Dans le second. Il y a Effie, et elle est jouée par. Et elle est jouée.
Lucy Hale.
Oui, Lucy Hale.
Mais elle arrive par magie, enfin.
Elle est trop mimes.
Ouais, oui, dans le premier.
Ensuite, Carmen, elle arrive dans Desperate Housewives.
J'adore.
Concrètement. Alors, moi, je me suis dit, c'est un peu film d'horreur façon Get Out.
Ouais, de ouf.
Quand elle, on dirait Ken et Barbie. Hein.
Ouais, quand elle arrive,
c'est les enfants, là.
Quand elle arrive devant la maison de sa belle-mère, et donc il y a sa belle-mère qui sort d'un coup, Lydia, avec son brushing, et les deux gosses qui portent la même chemise, et qui sont tous les deux blonds. Moi, je me suis dit, c'est terrifiant. C'est, je ne sais pas ce qui se passe.
Mais elle, pour le coup, sa storyline, je trouve qu'elle est assez fidèle
dans
l'histoire. Et je trouve que, du coup, l'actrice joue vraiment très bien, parce que notamment la scène où elle appelle son père en larmes et tout, genre... Moi, ça a grave marché sur moi, encore une fois.
Ouais, puis cette... je répéterai pas cette fois que j'adore America Ferrera.
Ouais,
ça.
Je trouve qu'elle a vraiment...
Mais le père est un peu plus sympa dans le film, quand
mais
même.
Mais tu l'as reconnu ou pas, l'acteur?
Mais oui, c'est qui?
Alors, c'est Bradley Whitford, et en fait, c'est celui... Il fait un commandeur dans Handmaid's Tale.
Ah,
et il fait aussi le père dans Get Out.
Ah, bah c'est,
ah
voilà.
C'est de là que
donc
ça
en fait, il fait que des rôles de mecs qui font trop peur.
Le père dans Get Out, c'est pas le père de Jake Peralta aussi?
Dans mais Brooklyn Nine-Nine. C'est lui. Ok, oui. Oh my god, oui, c'est lui. Ouais, c'est le père lui, de Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine. Ok, c'est de là que je le connais, en fait.
Ouais, c'est de là que qu'on le connaît, ouais, c'est ça.
Ok, ouais, tout est...
Mais oui, mais par contre, effectivement, la storyline de Carmen, je trouve qu'elle est bien respectée, et pour le coup, on ressent vraiment ses émotions dans toutes les scènes. Enfin, même la scène où, genre, elle est trop excitée parce que son père doit l'emmener faire du tennis, et finalement, elle se retrouve au match de foot de Paul, donc le fils de sa belle-mère, et qu'elle est trop saoulée. Et moi, j'étais avec elle, quoi. Je me dis, mais... La pauvre, enfin, je veux dire, littéralement, elle voit jamais son père et lui, il est là en mode.
Non, puis il y a vraiment
planque.
Un truc, attends, elle arrive, il le met devant le fait accompli, genre il pousse la voiture.
Horrible.
Au fait, by the way, ça c'est ma femme.
Et on se marie dans un mois. Horrible. C'est toxique à mort. Enfin, et ça, il n'y a pas de résolution.
Et c'est pour ça que moi, j'aime trop la scène où elle lui parle au téléphone et qu'elle pleure et qu'elle lui dit toutes ses quatre vérités et que lui, il dit genre. Il lui dit en mode genre non mais j'ai compris pourquoi t'as fait ça, t'inquiète, je t'excuse, pourquoi t'as jeté la pierre, et elle dit non mais en fait t'as rien compris, en fait, mais en fait moi je t'en veux et c'est pas la pierre dit, c'est rien et tout machin,
elle dit je suis pas en train de m'excuser, en fait je t'explique comment j'ai
et même aussi toute la storyline où elle est en mode genre non mais je suis pas en colère contre toi, puis après elle réalise qu'elle est en colère contre son père et que c'est pas facile. Moi j'aime trop ce truc en mode genre
c'est hyper difficile de quand t'as un parent qui est genre tellement moins présent dans sa vie de genre se rendre compte que t'es en colère contre lui alors que tu le vois qu'à certaines occasions et tout, c'est hyper
Bah surtout qu'elle est en plus, que ce soit dans le livre ou dans le film, Carmen elle essaie tout le temps d'impressionner son père, elle lui montre son bulletin, elle lui dit ah regarde cette année j'ai fait ça, je suis trop forte et tout, enfin elle veut qu'il soit fier d'elle et moi ça m'a aussi fait mal au cœur, c'est le début quand ils sont encore dans la voiture et qu'il conduit et elle dit ah mais si tu te souviens t'avais dit que jamais tu ne ferais ça, c'était quand on a fait telle vacances et tout, ça a dû être un week-end de 3 jours de merde, et lui il s'en souvient pas, et pour elle c'est un énorme souvenir, et ça ça m'a vraiment aussi ému. C'est des petits détails comme ça, mais et pour le coup la scène du téléphone, tu sais qu'elle était toute seule en fait au bout du fil, il était pas au bout du fil l'acteur. Il avait la flemme de jouer, donc c'était une femme en fait qui faisait remplaçante au bout du fil, qui faisait les réactions, les répliques. Et du coup, America Ferrera, bah, elle a vraiment dû genre, jouer...
C'est une superbe actrice.
Ouais, vraiment.
C'est une très, très bonne actrice.
Je trouve qu'en tout cas, elle a grave l'énergie de Carmen. Encore une fois, je trouve qu'elle sont quand même toutes bien castées, hein, de toute façon.
Ouais.
Mais donc, je trouve qu'elle rend bien justice à sa story.
Ouais. Mais du coup, je trouve que ça rend encore plus le fait qu'il n'y ait pas de résolution pour elle à la fin. Parce que là, je trouve que... Autant, tu vois, le côté un peu racisme, entre guillemets, de Lydia par rapport à Carmen.
Oui,
en fait,
même,
le fait
oui.
Qu'elle, en fait, elle soit dans une normalisation de société blanche et que du coup, elle oublie que Carmen est portoricaine, qu'elle a une autre culture, qu'elle parle potentiellement aussi une autre langue, etc. C'est exacerbé dans le film. Et surtout, la scène quand même où Lydia, elle va la réveiller le matin. Alors moi déjà, red flag, d'où tu me réveilles, jamais de la vie. Et ensuite, pour lui dire, tiens, donne à Maria tes draps pour qu'elle les lave. Oui. Et j'étais en mode,
c'est vrai que
c'est
le film,
hyper agressif.
Le film met vachement plus en avant le côté racisme ordinaire dans lequel
bien,
Carmen...
Moi, je trouve.
Ouais, mais de ouf, c'est vrai que
oui,
c'est...
Mais sauf que du coup, bah, à la fin, en fait, il n'y a pas de
résolution.
C'est genre, Lydia tend la main à Carmen en mode « Ah oh, oui, yes, t'es venue à mon mariage. » Et t'es en mode « Ben, en fait, il y a quand même des problèmes à résoudre dans cette famille. »
Je suis assez d'accord. Mais je trouve que le point faible du film, c'est un peu aussi « Il n'y a pas de résolution » dans la plupart des histoires.
Oui.
C'est aussi le gros point faible du film. Voilà.
L'histoire de Bridget... qui, elle vit sa meilleure vie.
Moi, franchement, ça m'a posé problème. Enfin, je trouve que Blake Lively se frotte au mec.
Mais H24. Non, mais déjà, on peut...
Mais, c'est pas possible. Enfin, genre, vraiment, je suis en mode, mais Blake Lively, je t'aime bien, mais là, en fait, c'est gênant. Enfin, c'est
non,
trop
mais si on peut le dire, c'est trop drôle. Toutes les meufs, elles ont genre des shorts de sport et des débardeurs, et Blake Lively, elle est toujours en brassière de sport et en mini-short.
Mini-short.
Genre, vraiment, ils l'ont fait. Elle a tous ces trucs où, genre...
En mode ultra bonasse.
Elle se met de l'eau dessus.
Non, mais oui, mais que des trucs comme ça. Et genre, vraiment, et à un moment, je suis en mode, mais... Là, c'est genre.
Mais c'est pour ça
c'est
que
c'est trop, c'est bizarre.
C'est pas à elle qu'il faut dire Blake Lively meuf, c'est au mec qui l'a dirigé, mais... au mec qui a réalisé, ouais. qui a fait pourquoi oui. tu lui as mis des gouttelettes de sueur qui perlent et.
J'ai vraiment une question. Est-ce que vous croyez. Moi, je me suis demandé parce que je trouvais que les scènes étaient tellement gênantes que je me suis dit, est-ce que du coup, c'est pas aussi une volonté de montrer qu'en fait son comportement est gênant parce qu'elle est jeune et juste elle va beaucoup trop loin et qu'en fait, bah, le mec, il aurait. Pas
je
du
vois.
Parce que tu vois, à un moment, elle, quand elle danse avec Eric dans un club, en mode elle se frotte à lui et tout, et lui, tu vois que. Il est un peu gêné quand même, tu vois. T'as pas de gros plans sur son visage, en mec en mode oh waouh, Blake Lively, elle se frotte trop, moi, tu vois.
tu vois ce que tu veux dire, mais par exemple, je trouve qu'ils le font montrer, par exemple, dans la scène où elle est dans le réfectoire et qu'elle dit oh, mais Eric, il a dit ça, mais c'est pour moi qu'il le dit parce qu'il l'a dit à voix haute. Et là, t'es déjà en mode genre, mais meuf, en fait, tu
fais
tellement une vie. Et en fait, je trouve que ce qui est un peu dommage avec le côté de elle se frotte autant au mec et tout, c'est que Bridget, il y a quand même un truc où elle est censée être une adolescente qui veut le séduire, mais je trouve que dans le bouquin, ça reste plus enfantin, tu vois, elle a un énorme crush sur lui, et elle est un peu, tu vois, c'est la meuf de 15 ans qui est en mode genre, oh là là, mais en fait, je crois que je suis prête, je veux coucher avec lui et tout.
Alors que là, on dirait qu'elle s'est tapée genre 10 mecs déjà dans sa vie.
Et du coup, ça perd un peu l'innocence enfantine qu'a Bridget plus.
Enfin, là, on croit pas que c'est sa première fois, enfin, franchement, en vrai, je sais pas, c'est...
Elle est très directe.
Ouais. Non, je suis assez d'accord que la façon dont ils l'ont dont la direction d'acteur, ouais, pour le coup, parce que je pense que Blake Lively faisait en effet ce qu'on lui a demandé de faire, et pas.
Elle a quand même pris 2 mois de cours de foot hein, pour jouer ce rôle.
Bah, elle joue bien. Hein.
Ouais, elle joue pas mal. Hein.
Elle marque des buts. Hein.
Elle marque des buts.
J'ai pas assez de connaissances sportives pour pouvoir dire. Moi, j'étais.
Non, mais tu vois. Tu vois que c'est elle qui joue. Enfin, quand elle court et elle fait des trucs avec le ballon, moi, je ne suis pas une experte non plus, mais ça me paraissait quand même plutôt crédible.
Oui, on est d'accord. Non, on est d'accord. Et à part ça, je trouve qu'elle a bien le côté genre hyper solaire qu'a Bridget et tout, mais en effet, c'est plus sexuel. Et même, je trouve qu'à la fin, son côté genre, elle fait une dépression post-truc. Poste sa première fois est moins accentué dans le film, c'est moins.
Et du coup, on comprend pas en fait.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Ouais.
Et en fait, on dit, en plus, avec l'explication, on dirait qu'en gros, elle est juste triste parce qu'il y a eu sa première fois qui s'est passée et qu'en fait, il n'y a pas sa mère pour qu'elle lui en parle. C'est un peu un raccourci comme ça.
Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure avec, pour moi, le problème de Bridget, c'est que ça se finit tellement vite. Il n'y a pas de résolution.
Et après, c'est Eric qui vient chez elle.
Oui, ça c'est.
Ça c'est tellement
bizarre.
C'est hyper bizarre.
Oui. Et pareil, ils ont plus ou moins une espèce de résolution, pas résolution, pas... Là, je pense que c'est un peu aussi les limites de, du coup, pas pouvoir mettre en scène tout son dialogue intérieur qu'elle a dans le bouquin, qui est beaucoup plus... Mais que du coup, même si, il y a quand même un peu à la fin la scène où elle discute avec ses Carmen et Tibi qui sont là. Mais même, ouais, c'est vrai qu'elle parle beaucoup de sa mère, alors qu'en fait, dans le bouquin, sa mère, c'est un truc, mais c'est pas vraiment ça le problème, hein. C'est pas sa mère son problème. Le problème, c'est qu'elle se sent hyper vite, qu'elle comprend pas, qu'elle a l'impression, du coup, qu'elle a plus d'énergie et tout, enfin...
Bah après, c'est aussi parce qu'elle a pas digéré le deuil de sa mère et que son père est très absent. Et ça, c'est aussi bien montré dans le film, le moment où elle est à l'aéroport et elle veut lui faire un câlin. Et il lui met à peine une tape dans le dos en mode « Allez vite, tu vas rater ton avion ». D'ailleurs, le père de Bridget, c'est le vrai père de Blake Lively.
C'est vrai ?
Ouais.
Wow.
On est vraiment un très bon public. Hein.
Mais j'adore, je vais faire ça tout le temps.
Avec la vie est naturellement blonde. Quoi ?
Incroyable.
Mais oui, et pour le coup, c'est vrai que la résolution avec Eric, autant dans le livre, en fait, elle est hyper amère parce qu'en fait, il lui dit en gros, on a merdé et ça aurait jamais dû arriver. Et franchement, bah, juste. Ça aurait pas. Je suis désolée que tu sois mal, mais en fait, ça aurait pas dû arriver et je regrette.
Bye, quoi.
Et là, du coup. Le fait qu'ils viennent chez elle à la fin, ça fait un peu en mode affaire à suivre. Et
ah,
en fait,
c'est atroce.
Oui, mais en fait, et du coup, c'est hyper déplacé parce que le truc du livre où à la fin ils s'en parlent, ouais. Bah en fait, tu te rends compte que voilà, que en fait, c'est clairement, c'est pas une fin heureuse.
Ouais,
et,
de ouf.
Et du coup, t'as ce côté où, oui, c'est gênant parce qu'effectivement, il y avait cette dimension écartage, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas une relation qui est pensée de manière positive.
Oui,
parce qu'en fait,
oui,
ça ne se termine mal. Alors que là, du coup, dans le film. Comme ça se termine un peu en mode ah mais
c'est un peu glorifié ouais
je voilà et du coup c'est pas du tout le même message je trouve
ouais je suis d'accord
parce qu'en fait ça fait un peu en mode mais en fait on est meant to be tu vois alors que c'est pas du tout ça dans le bouquin
c'est pas du tout crédible enfin le mec il va pas venir
oui
dans ce bled
son chien qu'il a le reconnaît enfin il l'a jamais vu n'importe
même
quoi.
Si fun fact Bridget finit avec Eric dans le bouquin aussi mais c'est en mode elle le retrouve
ils finissent tous avec les mecs qu'ils ont
alors,
rencontrés vaguement dans le
oui,
tome 1
sûr,
mais,
à part
mais,
Carmen
tu sais
qui
c'est,
finit
oui,
éternellement célibataire
mais heureuse elle se rend compte elle a tout et moi j'aime beaucoup cette story là où elle finit célibataire mais elle finit avec Eric mais c'est en mode elle le recroise déjà 3 ans plus tard et quand
dans le tome
3
comme par hasard
elle est pas pas contente de le recroiser. Enfin, il y a tout un truc où c'est reconstruit un peu plus et elle a beaucoup d'amertume envers lui et inversement. Enfin, c'est, oui. C'est mieux dans le livre.
Ils ont grandi. Et oui, et donc Eric, on le trouve pas beau ?
Non, moi
il
ça va.
Moi je trouve qu'il a une tête de tic-tac, le mec. Genre, il est.
Moi je trouve qu'il ressemble à James Marsden. Tu trouves pas celui de 27 robes en blond ?
Mais c'est drôle que tu dis ça.
Mais moi
parce
j'aime
que je
bien James Marsden.
Bah, je sais, c'est pour ça que je te dis ça.
Mais en. Moi je trouve qu'il est. Moi je trouve qu'il a pas. Ce... En... Non, déjà il faut le dire, excusez-moi. Mais Eric, il est censé être à moitié mexicain.
Ah oui, c'est.
Totalement mexicain.
Oui, c'est bon, d'ailleurs,
il est, ouais, ouais, il est pas totalement... du tout mexicain.
Alors que là, il est blondiné. Il est blond, donc déjà.
C'est vrai, qu'est-ce que c'est gênant ?
Premier, bah du coup, il n'y a pas du tout de cette storyline, mais sinon, normalement, ouais, dans le bouquin, il y a un mode de.
Ils vont dans le village de sa mère et
ouais,
tout.
Ouais.
Dans le
ah, mais oui.
Donc là, c'est vraiment clairement l'histoire qui a été.
Ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont blonds et ils sont sportifs.
Grave.
Ils sont faits pour être ensemble. Ouais, ok, intéressant. Et enfin, on a la storyline de Tibi, qui pour le coup aussi respecte pas mal la structure du livre, mais par contre il y a beaucoup de personnages en fait qui ont été supprimés.
Ouais. Oui, c'est plutôt c'est un peu accéléré, parce que pareil tu peux comprendre par rapport le... parce que le film est déjà entre guillemets long,
il
dure 2 heures, ce qui ouais. À l'époque c'était plutôt 1h30 hein, les comédies comme ça. Et du coup je trouve que il accélère un peu parce que c'est compliqué je trouve de faire beaucoup de personnages secondaires dans un film
oui.
Pour qu'on s'y accroche, mais je trouve que le message en lui-même passe assez bien. L'actrice qui joue Bailey je trouve marche bien.
Jenna Boyd
et tout. Et alors elle c'est, je sais pas si vous avez vu la série Awkward.
Oui, c'est la
oui.
Voilà, et en fait je voyais sa tête, je dis mais c'est sûr, c'est elle, elle a pas changé de tête.
Et
c'est incroyable.
C'est aussi la.
La fille dans Atypical.
Atypical, ouais. C'est ouais. La copine de.
Ah oui, c'est ça, ouais.
Main character dans Atypical.
Ouais. Et pour le coup, là, du coup, ils ont un peu changé la structure, puisqu'en fait, Tibi n'apprend pas tout de suite que Bailey a en fait un cancer, et du coup, c'est un peu la révélation coup de tonnerre. Et ça, pour le coup, je trouve, en termes d'adaptation, le fait de passer au média cinéma, c'est pas mal que la réalisation. Elle ne se fasse pas tout de suite, même si Tibi, oui. Quand même, aurait pu se poser des questions en la trouvant évanouie avec du pipi plein son pantalon dans Wallman.
Mais
enfin,
en
dans
effet, il y a quand même un peu un côté, oui, ça crée plus en tant que quand tu regardes, si t'as pas lu les bouquins, ça crée un peu plus de surprise et un peu plus un twist.
Mais,
et ça
oui,
rend l'histoire plus
ça.
Rythmée quand même.
Et après, je trouve qu'elle est très bien castée pour le coup, Jenna Boyd, parce qu'elle a ce truc de. Elle parle hyper mal, enfin, elle a ce truc-là. Ouais. Je fais une aparté pour vous donner mon fun fact de ce podcast. Savez-vous que Jenna Boyd est pro-Trump ?
Oh,
son Instagram est totalement de droite, en fait. Et elle est très pro-troops, pro-armée, voilà.
Alors qu'elle joue la copine de la meuf dans Atypical.
La copine, non, pas de la meuf, elle joue la copine du protagoniste. Ouais.
Ah, my bad,
je croyais. De Kirle Gaychrist.
Ah, je sais pas pourquoi, je croyais que... Ok, j'ai pas vu ça.
Écoute, visiblement, les convictions, l'argent...
Ok, en effet, un twist, quand tu la vois comme ça, je...
Voilà.
Petite Bailey Mimi, ok, mauvaise tournure.
Mais oui, en tout cas, les scènes de Bailey, elles sont vraiment hyper attachantes, et il y a pas mal de discours qui ont été un peu gardés par rapport au roman, enfin, le moment où elle dit « j'ai peur du temps qui passe, de pas avoir assez
en fait,
de temps ».
En fait, c'est marrant, parce qu'on dirait qu'elle a 60 ans quand elle parle.
De enfin,
Maître Yoda, ouais.
Moi, je me suis dit, est-ce que la maladie entraîne la sagesse, tu vois, parce que
c'est encore nos étoiles contraires.
Avec des
enfants,
je vous jure, il y a des enfants qui parlent comme ça. Genre, notamment, ouais, je fais un bisou à Gilles qui n'écoutera jamais cette émission. Gilles a 8 ans.
Donc, mais déjà, il s'appelle Gilles, donc à
partir de là. Gilles, et genre, quand Gilles parle, il te parle vraiment, t'as l'impression que c'est.
Il est pénétré, quoi.
Ouais, genre, franchement, il est habité par quelque chose, quoi. Il a, est-ce que s'il te plaît, tu peux mettre The Police après quand tu mets un Pokora, tu vois, j'adore.
Non, mais oui, c'est vrai qu'elle a un truc où elle fait vraiment des longues citations. Mais en vrai, ça avait trop marché sur moi quand j'avais 13 ans.
Après, t'as quand même aussi des phrases qui n'ont aucun sens. Genre, Tibi qui lui dit t'as 10 ans. Et elle dit non, j'en ai 12. Quand j'avais 10 ans, j'avais pas d'iPod. Je ne vois pas le rapport.
À l'époque, c'était peut-être funny, tu vois, je sais pas.
C'est ouais, vrai que.
C'est des phrases qui ont très mal vieilli.
C'était très important d'avoir un iPod à cette époque, je me souviens. Parce que j'en avais un, c'était la prunelle de mes yeux.
Donc, ils ont aussi des Walkman. Hein. Moi, j'ai remarqué que quand Léna ouvrait sa valise en Grèce, il y avait un Walkman
c'est
dedans.
Vrai.
Bah, du coup, t'as dit 2005 le film.
Mais
2005.
C'est plus l'époque des MP3 Carrefour, 2005, non, déjà.
Mais les Amériques, ils sont
en avance.
Ils ont les trucs en avance, ouais, je pense. Mais ouais, et par contre, le personnage justement de Brian, qui est très important dans le livre, là, je trouve qu'il est à peine effleuré dans le film. Et surtout, il est hyper caricatural. Enfin, là, vraiment, l'acteur, la première fois qu'on le voit, on dirait qu'il est en train de se frotter sur sa borne d'arcade.
Et en plus, ils ont aussi casté un mec asiatique en mode le geek asiatique, alors que dans le bouquin, il n'est jamais mentionné qu'il est asiatique.
Ouais.
C'est juste un petit mec palo, tu vois. Donc,
c'est vrai.
C'est vrai que c'est assez particulier comme choix de casting.
Ouais, je suis assez d'accord, mais
même si en même temps ça fait un quota de diversité qui est cool, tu vois. Mais...
Ouais, mais mettre de la diversité pour faire des quotas, c'est bon.
Non, mais surtout pour faire que le geek ce soit de l'asiatique.
Non, mais puis surtout, enfin normalement, oui, il se voit quand même régulièrement tout l'été. Et en fait, là, il a juste deux scènes. Ouais, donc bon, mais bon, effectivement, le film est quand même déjà assez long. Il fallait un peu resserrer tout ça, donc on coupe la sœur, on coupe Brian. Bon, mais sinon, c'est quand même globalement assez respectueux du matériel de base.
Oui, moi je trouve que la vibe, entre guillemets, l'essence du bouquin est quand même assez présente. L'essence, le concept. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est
mais
genre.
Je suis
quand
d'accord
même
avec toi, tu sais, de toute manière. Je suis toujours d'accord avec toi.
Du coup, est-ce que vous direz que c'est une bonne ou une mauvaise adaptation?
Moi je dirais que c'est une bonne adaptation parce que le matériau de départ me semble pas très éloigné du matériau d'arrivée. Après, est-ce que c'est un bon film?
Ah oui, ça c'est pas la même question.
Voilà, c'est pas la même question.
Je suis assez d'accord avec toi. Je suis d'accord. Que c'est une adaptation qui voilà qui a la vibe du bouquin mais qui ouais non voilà qui n'est quand même pas un film incroyable voilà voilà non je le dis mais quand même je trouve bonne alchimie entre les actrices.
Vous trouvez que c'est pas un bon film?
Je trouve que dans le genre teen com
il y a mieux,
il y a mieux.
Ouais, moi je trouve on passe pas un mauvais moment mais ouais ça reste vraiment très teen movie années 2000 et
oubliable.
Ça reste là-bas, quoi. Enfin,
mais quand tu regardes Mean Girls à côté, tu vois, je suis genre... Ouais,
c'est sorti la même année, en plus.
C'est pas autant je trouve que c'est pas autant marquant que le bouquin...
Ça va pas traverser les âges, comme d'autres films, quand même, teen movie de ces années-là.
Et disons, je pense qu'aussi la notoriété qu'a ce film, c'est aussi parce qu'il est basé sur le bouquin et que ce bouquin avait une fanbase. Ce film serait sorti tout seul... Sans
et le film, du coup, il y a eu un deuxième film, mais il n'y a pas eu de suite après.
Non, bah alors en fait, elles ont teasé pendant de longues années les quatre actrices qu'il y aurait un 3. Et finalement, bah, on attend toujours. Donc, moi, ce qui me ferait très peur, c'est qu'ils adaptent du coup le dernier roman.
Ouais, j'espère que non.
En mode 10 ans plus tard. Et ça, j'espère pas, parce que franchement, le roman, le cinquième roman est un crève-cœur. Sans vous dire en gros ce qui se passe. Mais j'ai découvert ce roman au détour du Furet. Donc, quand j'avais genre.
Il y a des gens qui meurent.
Genre 19 ans. Ouais, et donc du coup, je me suis dit, oh tiens, il y a eu un nouveau cas de fille, incroyable.
Ah là là là.
Et je commence à m'asseoir et à le lire. Et au bout de 100 pages, je repose, elle dit, ok. Je regrette. Parce qu'effectivement, il y a un des personnages principaux qui meurt.
Voilà, l'une des quatre, on peut le dire.
L'une des quatre meurt.
Donc terrible, ouais, non,
c'est affreux.
Même si, en vrai,
il prend un peu de mental
plein de belles leçons, ce cinquième, mais pas... Non, oui. J'espère qu'ils vont pas le refaire. Mais le petit fun fact, en fait, le deuxième film est un mix de plusieurs des étés.
Pour moi, il me semble que c'est surtout le troisième en plus.
Oui,
hein.
C'est plus le troisième. Parce mais par exemple, quand même il mixe les histoires de Bridget. Elle va voir sa grand-mère et elle va
Mais elle se teint pas les cheveux en noir.
Ouais, il y a des trucs où du coup, ils ont un peu genre mélangé, fait un peu une sauce pour raconter tous les trucs qu'ils voulaient. Pareil, l'histoire de Lena et tout.
Parce que dans le deuxième film, c'est YOLO, on fait ce qu'on veut, quoi.
Un peu.
Donc, bon. Mais en même temps, pas plus mal parce que ça permet d'avancer plus dans l'histoire et tout. Mais en tout cas, le premier est une adaptation plus fidèle du premier roman, ça c'est sûr.
Ouais, moi je trouve que c'est quand même une très bonne adaptation. Les émotions sont quand même là au moment qu'il faut. Au début, j'étais très sceptique sur l'histoire de Costos et Lena, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, l'histoire de Lena ne se prêtait pas bien à une adaptation. Mais par contre, je serais curieuse de voir ce qu'ils pourraient en faire aujourd'hui s'ils en faisaient une série. Tu vois,
c'est...
Je suis assez d'accord. Et
tu sais, pour être un peu plus introspective, justement.
Bah, je slide dans vos paroles pour vous recommander Babysitter's Club. Qui est... en fait, a été adopté très adopté n'importe quoi. A été adapté très tardivement. Parce que c'est sorti à peu près au même moment.
Ouais, sorti il y a deux ans en série aussi sur Netflix.
En série, oui, c'est sorti il y a deux ans. Mais par contre, les bouquins datent à peu près de la même époque que.
Oui, je les lisais, j'avais aussi 10 ans. Donc,
ouais, voilà, moi pareil. Et par contre, en fait, ils ont attendu pour les adapter. Et c'est vachement bien. Genre la série Netflix, pour les jeunes ados, les enfants, etc. Et même les adultes qui font des trucs comme ça, c'est vachement bien. Parce que du coup, ça permet d'avoir vraiment des traitements de personnages beaucoup plus, tu vois, poussés. Qu'un film. Mais à l'époque, dans les années 2000, les films, c'était la mode.
Oui, bah oui, il n'y avait pas de série comme ça.
Non, mais puis le film, on sent quand même... Enfin, ça reste comme un peu doudou. Et on sent qu'effectivement, il y a la bonne ambiance entre les actrices. Apparemment, d'ailleurs, tout le monde devait leur dire à chaque fois d'arrêter de rigoler et de se taire parce qu'en fait, elles passaient leur temps à glousser et à se faire des...
Typique.
Voilà. Et apparemment, en plus, la méthode de Ken Kwapis, au lieu de dire action, il disait « Bon, faites votre truc, là ». Et voilà, d'accord. Du coup, ça crée une ambiance très détendue sur le tournage.
Regarde, il fait son truc. Bah, moi, j'en suis vraiment sur Taylor Swift, tu me dis de faire mon truc.
En tout cas, Quatre filles et un jean, pour son budget de 25 millions de dollars, en a rapporté au total 42 millions au box-office mondial. Donc c'est pas non plus...
Oui, c'est pas incroyable.
C'est pas le succès du siècle.
Non, mais c'est pas mal. C'est rentable.
C'est rentable.
Ouais, 42 millions, ouais.
C'est rentable, mais je pense que...
T'as 3 centimes sur ton compte bancaire.
Si vous voulez faire une franchise, je pense que c'est raté, tu vois. Donc,
bah, c'est pour ça, c'est pour ça que le deuxième est plus expéditif en termes des histoires et qu'ils n'ont pas fait chaque été, tu vois.
Bah oui, oui, certainement. Et après, bon, bah voilà, le film a eu... Après, effectivement, il est devenu un peu culte, mais à cause du livre. Et après, il a été nommé, par exemple, à beaucoup de Teen Choice. Je crois que les 4 filles, elles ont été nommées aux Teen Choice Awards de l'époque. Même Jenna Boyd, même, bah, du coup, celui qui fait Costos, il a été nommé aux Teen Choice Awards. Meilleure romance aussi pour Costos et Lena.
Oh la vache.
En vrai, non, enfin...
Non, mais ils ont été nommés, ils l'ont pas eu.
Moi, je suis Team Pascal all the way. Hein.
Ah ouais, franchement.
Est-ce que vous avez préféré, bon, je pense qu'on a répondu, mais le roman ou le film 4 filles et un jean?
Le roman
aussi. Ouais. Voilà, comme ça c'est clair. Mais bon, voilà, moi je déconseille pas quand même le film.
Oui, non mais et c'est surtout genre, je pense que le bouquin, si tu l'as pas lu quand t'es jeune, bon, enfin même si toi t'as bien aimé le relire, mais si vous êtes pas quelqu'un qui lisait beaucoup et que ça intéresse beaucoup, mais que l'histoire vous a plu, regardez le film, ça fera l'affaire.
Après, le livre fait que 280 pages. Enfin, franchement, oui, mais allez-y, hein, c'est très court.
Ultra vite. Bah, je vous dis, j'ai lu les 5 en une semaine. Donc, genre, bon, après, j'ai 2 heures de métro par jour, mais...
Si vous êtes ado, lisez-le, en fait.
Oui. Moi, après... Je serais curieuse de savoir ce que des ados aujourd'hui en diraient. Je pense que...
En tout cas, je pense pas qu'ils parleraient de la sorcellerie par rapport au pacte, mais oui, clairement. Bah, moi aussi, du coup, je préfère le roman, bien sûr. Maintenant qu'on a fini de parler de 4 filles et un jean, et oui, c'est fini, c'est le moment de passer à nos recommandations. Qu'est-ce que vous recommandez en lien avec les amitiés féminines, les romans d'Anne Brashers, les teen movies qui se passent en été, n'importe quelle œuvre en lien, enfin... Qu'est-ce qui vous inspire?
Bah,
c'est vrai que c'est un peu... Si vous deviez définir un trope pour 4 filles et un jean, est-ce que ce serait pas finalement l'été pour tout changer? Un peu comme Camp Rock.
C'est vrai, l'été pour tout changer. On n'a pas pris ce trope-là pour Camp Rock.
Non, mais parce que tu nous dis. Mais parce qu'on a pris le trope de la rom-com.
Oui.
Donc on a. On a analysé.
Mais moi je suis dans le teen movie là.
Voilà, oui, c'est pas du tout la même chose.
Et du coup, vous avez pris quoi?
On a pris Poisson hors de l'eau.
C'est le concept de quand tu sors de ton milieu, c'est-à-dire que genre t'as la pop star qui va dans le petit camp avec les gens normaux et t'as la meuf normale qui va dans le camp avec tous les gens populaires et riches alors que
qui s'invente une life.
C'est par exemple dans Notting Hill aussi, tu vois, genre parce
ah bah oui, Hugh qui est proposé dans la super
actrice et la super actrice qui va dîner.
Jamais.
Oui, pardon, c'est le même trope, mais ce n'est pas le même film. Et donc pour nos recommandations, mais du coup juste toi Clara,
mais quel trope vous auriez mis à 4 filles et un jean?
Sous le
trope de la rom-com.
Ah, bah,
ça marche que avec Lena, du coup.
Bah, Lena et Koso, c'est l'amour interdit, ça c'est sûr.
Non, bah, pour le film, ouais.
Oui, pour le film, pour le film, bouquin. C'est l'amour interdit. En vrai, pour le bouquin, moi je trouve que le trope, c'est plutôt genre les meilleurs amis, qui est un trope assez classique.
Oui, mais au niveau rom-com, si tu dois analyser.
Bah, le trope du malentendu.
C'est pas une rom-com, donc c'est difficile, quoi.
C'est vrai que c'est pas vraiment rom-com.
Après, t'as des tropes dans tous les médias, enfin tous les trucs ont des tropes.
Mais Victor demandait Romcom, donc
du coup ouais, peut-être l'été pour tout changer ça correspond bien.
Oui, ouais, l'été pour tout changer ça correspond bien au bouquin
ou genre mais en vrai les meilleurs amis d'enfance t'as souvent ça aussi dans les bouquins. Et du coup pour nos recommandations, donc toi Clara c'était
j'ai déjà dit 46 fois,
c'est les Babysitter's Club.
Quoi, comment, oui, je découvre.
Et alors moi ma recommandation vraiment ça va être deux salles, deux ambiances. Par contre je me sens mal parce que t'as dit les amitiés féminines et moi je parle d'un bouquin qui parle d'amitié masculine.
Encore A Little Life.
Oui, mais je suis désolée. Je réfléchissais dans le métro à qu'est-ce que j'allais recommander. Et si l'histoire, c'est un quatuor de mecs versus là, c'est un quatuor de meufs. Alors, A Little Life n'est pas du tout un roman pour adolescents. Si vous êtes un adolescent, ne lisez pas ce livre. Et si vous êtes un adulte, vérifiez la liste des sujets dont parle A Little Life si vous êtes quelqu'un d'un peu sensible, parce que ça parle de choses très dures. Mais pour vous le raconter, c'est un livre de Anya Yanagihara qui est sorti, je crois, en 2015, dans ces eaux-là, et qui suit l'amitié de 4 jeunes hommes qui vivent à New York, et le bouquin se passe sur 20 ans, et on suit leur amitié pendant 20 ans. Et ouais, vous qui lisez beaucoup, vous n'en avez jamais. C'est une vie comme les autres.
Est-ce que c'est pas la couve en noir et blanc avec un mec qui hurle?
Ouais. Enfin, je vois. Ouais. Et c'est une vie comme les autres en français.
Je vois la couve, mais je l'ai pas lu.
Et du coup, c'est un gros pavé, hein. Mais en gros, donc tu suis leur amitié, et l'histoire se resserre petit à petit autour du personnage principal qui s'appelle Jude, qui est un personnage qui a un passé très très complexe et très très triste. Et en gros, c'est tout le concept de genre la famille choisie, l'amitié, qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que l'amour, quelle est la différence entre l'amour et l'amitié. Et vraiment, tu les suis pendant des années, comme c'est un long livre. Tu rentres vraiment dans leurs histoires et les personnages sont hyper bien caractérisés, hyper bien écrits. Et tu ressens vraiment leurs émotions. C'est un bouquin extrêmement triste et c'est surtout un livre très clivant. Il y a des gens qui adorent. Tous les gens que je connais qui l'ont lu, soit ils ont adoré, soit ils ont détesté. Et ça intéressant. Et donc, si vous ne l'aimez pas, ne connaissez pas le contenu pendant ces 100 pages. Mais en tout cas, moi, je l'ai adoré. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversée et c'est mon livre préféré. Voilà.
Et est-ce qu'il porte des jeans?
écoute, non, il plutôt joue sur la fin plutôt qu'au costard parce que c'est un avocat. Mais à voir, il pourrait se le partager peut-être. Okay. Je demanderai à l'autrice. Elle a un jour répondu à mon post sur Instagram.
Ouh,
voilà. Je pense qu'elle est peut-être son assistant.
C'est-à-dire qu'elle en a vu 70 et puis après elle s'est dit.
Je pense que c'est son assistant parce que dans le livre, dans le post sur Instagram, je dis merci pour. À cause de toi, j'ai besoin de thérapie. Et elle a répondu merci d'avoir lu le livre avec un cœur. J'étais là, elle n'a pas lu.
Ah oui, d'accord.
Hors sujet.
Mais donc vraiment, si vous aimez les belles histoires d'amitié, je trouve que c'est un très très beau livre sur ça. Voilà. Et vous, c'est quoi vos recommandations?
Alors moi je vais rester dans des trucs pour ados qui se passent en été.
Ouais.
Et alors c'est pas vraiment une recommandation, mais c'est plutôt un moment nostalgie. Est-ce que vous regardiez KD2A quand vous étiez ado?
Oui.
Non. Est-ce que vous connaissez Cœur Océan?
Alors, je regardais pas Cœur Océan, mais ma cousine regardait pas mal.
Ah ouais, Le plus bel la vie des ados, quoi.
Ouais, donc c'est pas vraiment une recommandation, mais c'est un peu un clin d'œil.
Aux années 2000.
Ma sœur avec qui on se levait tous les matins de l'été pour regarder Cœur Océan, ça se passait sur l'île de Ré.
Ouais.
C'était trop bien, quoi.
C'était pas Plus belle la vie des ados. C'était, comment ça s'appelait? Sous le soleil des ados.
Ouais. Mais c'était, voilà. C'était très sympa à l'époque. Et sinon, une autre reco d'une série que je viens de regarder, qui est aussi tirée d'une série de livres, et c'est The Summer I Turned Pretty.
Ah oui.
L'été où je suis devenue jolie. Le titre est vraiment horrible. Mais résume plutôt bien. Vous n'avez pas eu un
été où vous êtes devenue belle.
En fait, on s'est posé la question, on s'est dit, nous, c'était pas quand on avait 16 ans, c'est clair.
C'était celui-là. Hein,
c'était bien après.
C'était plus tard. Mais du coup, voilà, c'est une série un peu sympa qui se passe l'été. C'est très série pour ados, mais j'aime bien, ça prend pas la tête. Voilà, il y a des triangles amoureux, il y a des... entre des frères.
Oh, tout ce qu'on aime.
Et non, vraiment pas les triangles amoureux.
Voilà.
Ok. Alors, moi, vous vous souvenez de Jodie Anderson, celle qui s'est peut-être fait piquer son idée de livre? Du coup, je vais recommander parce qu'elle a écrit une trilogie par la suite sur trois amis. Et ça se passe dans un verger de pêche en Géorgie. Et du coup, c'est trois filles aussi très différentes et qui vont cueillir des pêches un été et qui vont devenir meilleures amies.
J'adore. C'est trois filles et une pêche ou...
Non mais du coup, si on parle des bouquins pour les amitiés féminines d'ado, est-ce que vous vous souvenez avoir lu Ma meilleure amie de, comment ça s'appelait, Jacqueline Wilson? Vous vous souvenez de ces bouquins pour enfants? Jacqueline Wilson, vous voyez pas avec les dessins, les couvertures?
Non mais moi j'étais pas du tout dans ce délire.
Oh my god. Mais ça, elle a fait un bouquin qui s'appelle Ma meilleure amie qui m'a traumatisée quand j'étais jeune, parce que c'est l'histoire d'une petite fille, sa meilleure amie meurt dans un accident de voiture et ensuite elle la voit en fantôme et elle la hante.
Génial.
C'est horrible.
Sympa.
Vachement sur l'amitié.
Toi, on t'invite en soirée, non?
Toi, t'as vraiment que des trucs badants de ouf, quoi.
Je suis désolée. Mais super, si vous avez lu les bouquins pour enfants, franchement, moi je recommande, ça m'a beaucoup forgé aussi.
Alors que pour le coup, Peau de pêche, c'est beaucoup plus léger, quoi. T'as Murphy, la rebelle, t'as Lida, la fille de bonne famille, mais qui va un peu se dévergonder.
Oh.
Et t'as Birdie, qui est un peu rondelette et un peu mal dans sa peau, mais qui va aussi apprendre à découvrir l'amour avec un beau Mexicain.
Mais du coup, est-ce qu'en anglais, comment, c'est quoi le titre original? Parce que Peau de pêche, c'est
Peaches.
Trop rose. Ah, mais Peau de pêche, une super traduction pour le titre. Hein.
Ouais.
Ça, putain, bien joué, hein, la traduction. Traducteur aussi qu'on embrasse, vraiment un super job très important dans la littérature.
Donc voilà, donc Jodie, finalement, elle a aussi marqué mon adolescence. Mais donc
contente
ça
pour
va.
Elle, franchement.
Grave, good for her.
Ouais. Voilà, même si elle, ses livres n'ont jamais été adaptés. Je pense pas qu'elle ait eu le même succès que Anne Brashears, mais bon, voilà.
Mais on l'embrasse.
C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous deux, Clara et Flore, d'être venues parler.
Merci beaucoup.
Si, oh là là, j'ai vécu ma meilleure vie. J'embrasse la moi de 13 ans qui est actuellement aux anges d'avoir fait cet épisode.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là.
Vous pouvez retrouver Rome Comment, le podcast qui t'explique comment, mais comment sont faites vos comédies romantiques préférées sur toutes les applications de podcast, mais aussi sur Twitter et Instagram.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, on vous dit à bientôt. Salut !
À bientôt !